Avertissement à tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture ou camion. Bouclez votre ceinture. Interdiction de boire. Pour les prochaines minutes, toute votre attention doit être sur votre radio. Car c'est Radio Shock and Friends qui débute à l'instant.
Radio Shock and Friends. Okay, good evening. This is your captain speaking with just a little flight information.
Attache ta ceinture. Toute l'équipe de Radio Shock and Friends se prépare au décollage.
Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Radio Choc sur les ondes de XM172. Yes, entraînant comme musique,
ouais,
ça.
Ouais, pas méchant, pas méchant, c'est smart.
Bon, Rage Against the Machine.
Je connaissais pas, mais c'est bon.
Tu connaissais pas?
Non, ben je connais le nom du groupe, mais je dis la chanson, non, effectivement.
Non.
Alors, ouais, culture.
Bienvenue tout le monde à Radio Choc. On a beaucoup de visites ce soir.
De la grande visite en studio.
Oui. Qu'on a annoncé là, la semaine passée, donc... Notre ami Thérèse Demi qui est là, premièrement, on va le saluer parce qu'il est habituellement au bout du fil, mais là, on l'a avec nous ce soir.
C'est bien, tu n'attends pas 7 minutes avant de me dire bonjour.
Ouais.
On libère les lignes en plus ce soir.
Acheter devant la face comme ça, donc j'ai pas le choix.
T'as pas le choix.
Oui.
Alors, bonjour.
Bonjour. Alors aussi, on a, comme on a annoncé la semaine passée, nos amis qui vont venir nous parler de leur expérience. Donc, on a Annick qui est avec nous et son copain. Bonsoir, on va ouvrir ton micro, comme ça va aller mieux. J'avais dit que je t'allais ouvrir. Ça va bien?
Oui, merci.
Oui. On va saluer aussi, tant qu'à faire des salutations, Witness.
Salut. Oui,
en forme.
Salut, oui.
Je le spécifie, Witness, parce que ce soir, ça va être un peu spécial. On va prendre les appels,
exact.
Je vous le dis tout de suite.
Oui.
Mais on préférerait que ce soit des questions que vous avez pour les invités qui sont là.
Oui.
Par rapport à leur expérience et... c'est pas qu'on veut pas vous parler ou on veut pas avoir vos commentaires, mais on aimerait que ça soit vraiment des questions qui peuvent peut-être amener des éclaircissements. Donc, on vous donne les numéros de téléphone. C'est le 1-866-497-4728 pour ceux qui sont à l'extérieur de Québec. Et pour ceux qui sont dans la région de Québec, c'est le 418-780-0876.
Peut-être préciser aussi, on a parlé d'Annick, mais c'est Sombri aussi, son copain. Qui
oui,
est avec
c'est vrai.
Lui, bien sûr.
Bon. Ceci dit, il y a aussi le courriel live@radioshocklive.com. Même chose, si vous voulez participer au chat, comme j'ai dit la semaine passée, venez sur la page web, donc au radioshocklive.com, et vous allez voir dans le haut chat. Cliquez là-dessus, automatiquement, vous allez arriver dans le canal avec nous. Vous allez pouvoir parler à notre ami Witness.
Hey, Witness is now.
Qui se fait un devoir de prendre...
Et de répondre à vos besoins les plus particuliers.
Oui, les plus particuliers. Une demande.
Si vous avez des demandes un peu trop osées, il y a notre ami Doff qui peut toujours régler.
On se déplace et reçoit.
Oui. Hey, on a une annonce, on l'a fait tout de suite. On a-tu une confirmation au test demi? Pas encore?
Super, je peux pas confirmer maintenant.
Okay.
C'est très direct, hein. C'est qu'on est en train d'organiser la guerre des sexes 3 et la date est à confirmer, mais, c'est
ça. Donc on va le faire d'ici la fin de l'émission?
Après la pause,
on va vous confirmer la date formelle pour le spécial guerre des sexes 3.
Qui va avoir un nouveau volet en passant.
Ouais.
À 40 ans, entre autres. Est-ce que le sexe change? Est-ce qu'on a nos habitudes changent?
Et Doff, peut-être cette semaine, on mettra sur la page web les thématiques qu'on va aborder.
Oui.
Les grandes lignes.
Exactement.
Pour que les gens puissent nous apporter peut-être des précisions,
questions,
peu importe, là. Ça pourrait être intéressant. Fait qu'on va leur donner un peu de matière. On fera ça cette semaine.
Exact. Oui.
Et parlant de la guerre des sexes, hier, j'étais dans la région de Montréal, mon ami Doff.
Il y en a du sexe là-bas?
Non, c'est que je me suis retrouvé dans un événement.
C'est que t'étais?
Je vais te conter un peu l'histoire. J'avais un souper de prévu au Sukhothai, qui est un super de bon restaurant thaïlandais dans la région de Laval. Donc, c'est dans le coin du gros Power Center qu'ils ont fait à Laval, où c'est le Cosmodome, puis... donc, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins. On est allé souper au Sukhothai et juste après, on a décidé d'aller au Mumba. Est-ce que tu connais le Mumba, Doff?
Non.
Non?
Non.
Jamais entendu
parler.
T'as
pas de danseuse? Hein?
Non, non.
Ben, je sais pas, le Mumba.
C'est drôle, hein? C'est drôle qu'ils disent ça, je trouve.
Non, mais le Mumba, c'est toujours bien pas un jeu de fléchettes, là.
Pense à la danse,
tu sais. Oui, c'est de la danse.
Non, mais c'est une belle boîte, hein. En passant, c'est super bien. Donc, je me rends là avec des copains.
Donc, Dan, était-tu là aussi?
Non.
Ben non, il m'a jamais parlé de ça.
Mélange-les pas à mes histoires.
OK.
Ça, c'est aujourd'hui, mais pas hier. Donc, je me rends là et on commence. T'sais. Bon, t'es dans un bar, là, tu te prends une petite bière, tu te tiens proche de la piste de danse. Puis là, à un moment donné, pouf, la musique arrête. Hein, la musique est entraînante. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, le DJ prend le micro, puis là, il nous dit, « Hey, mesdames et messieurs, tel qu'annoncé, nous avons Ron Jeremy. » Est-ce que tu connais Ron Jeremy?
Ben oui, c'est une star du porn.
Ben moi, je ne savais pas c'était qui.
Ah oui, Ron.
Et,
mais c'est pas l'image que le monde a. Là,
non. Et Peter North.
Il y a un autre star du... Oui.
Ah, ben
non, mais écoute, on a tous été jeunes, on a déjà écouté des films.
Ah, oh, ouais.
Moi, je voulais préciser que j'avais aucune idée c'était qui Peter North. Okay? Par contre, Ron Jeremy, The Man, The Legend,
ben non,
je
mais c'est ça. Là,
mais moi, sérieusement,
comme,
là...
Comme Jane Jameson, c'est à peu près la même
affaire. Il y a des milliers d'enfants illégitimes dans le monde, ce gars-là.
Non, ouais. Mais je t'avoue, quand j'ai vu leur bête, là, j'ai cliqué. Mais là, justement avant qu'ils rentrent, là, ils nous ont dit, on arrête la musique, préparez-vous, ils vont sortir de la limousine, donc... C'est quoi cette histoire-là? Deux no-names, tu sais. Comment ça qu'ils brisent le party? Fait que là, les deux gars rentrent. Et là, c'est ça, nos stars du porn qui étaient là.
Mais il aurait pu amener une fille, mais ça, il y a même deux
ouais,
gars.
Oui, mais là, il y avait du staffing, là. Tu peux pas t'imaginer. Puis, je trouvais ça bizarre parce que là, tu sais, il y a des belles filles au Québec, mais là, je trouvais que c'était comme un peu...
Trop.
Puis là, j'ai compris, là, tu sais, il y avait... toute la crowd, tu sais, de la scène 3X de Montréal qui était là. Pourtant, là, le Mumba, là, c'est un bar, là, super high class, là. C'est quelque chose, là. C'est pas un bar où tu t'attendais d'avoir.
Mais là, ils ont-tu jasé? Ils ont-tu fait de quoi? C'est quoi?
Ben, toute la soirée, promotion avec des DVD, des choses okay. Du genre. Ils ont signé, évidemment, avec un crayon feutre, là, toutes les filles qui.
Duff, il tournait un film, là.
Mais ça pour dire.
Ça s'appelait la Boomba de Drone.
Ça m'a fait penser à notre spécial La Guerre des Sexes.
Oui.
Puis je suis convaincu qu'hier, si t'aurais été là, j'ai pensé à toi, tu t'aurais fait un moyen plaisir à peut-être faire des petites analyses sur les comportements qu'il y avait là, parce que c'était un peu étrange comme soirée.
Ça devait être weird un peu, ouais.
Malgré que j'ai super bien apprécié ma soirée, mais tout ça pour te dire que Planète Montréal est capable de faire des événements comme ça, organisés un peu partout dans la région, puis c'est impressionnant de voir là la production qui avait été mise là, puis c'était big. C'était vraiment big.
J'imagine.
Il a juste bu dans son verre, puis il a quand même pogné deux ITS.
C'est pas vrai.
On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va fermer la parenthèse, mais on confirme d'ici la fin de l'émission. Là, on va rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Puis, à Radio Choc, vous savez qu'on veut toujours un peu apporter un angle différent aux choses. On aime parler des choses de l'intérieur aussi. Donc, parler à des gens qui sont impliqués... dans tout ce qu'on peut voir des fois dans les médias, mais les médias ont toujours une sensibilité un peu liée au sensationnalisme. On cherche toujours aussi à épater la galerie. Qu'est-ce qu'il y a?
Sensationnalisme. Parce que tu oublies toujours trois syllabes. Fais signe à rien d'analysme. C'est pas grave. Non, il donne juste un papier. Là.
Donc,
on va le savoir la semaine prochaine.
C'est ça. Annick et Sombri.
Oui.
Je prononce bien? C'est comme ça. Ont vécu une expérience... ben j'imagine, en tout cas, en discutant, on verra si ça a été enrichissant, mais quelque chose de quand même assez exceptionnel. Il y a peu de gens au Québec, je veux pas dire qu'ils ont eu la chance, là, parce que c'est pas nécessairement une chance, mais vous avez carrément été témoin de la tragédie qu'on a connue en janvier, donc c'est-à-dire le tremblement de terre à Haïti. Et je pense qu'avant, on devrait faire une mise en contexte, à savoir comment ça vous étiez là-bas au départ.
Bon, Sombri, c'est quelqu'un qui vivait en Haïti. Donc, on s'est rencontrés il y a quelques années de ça, et puis on se mariait finalement en janvier. Ce qui m'a mené finalement à m'en aller en Haïti. Je suis arrivée le 5 janvier, puis on s'est mariés là, au courant de mon voyage. C'est la raison pour laquelle j'étais là.
Donc, toi, tu t'en allais là, dans l'idée d'aller te marier. Un petit voyage lune de miel, j'imagine.
Oui, lune de miel qui était prévue aussi, qui était un peu écourtée malheureusement avec la suite des événements, mais le but c'était vraiment ça, là, le but du voyage.
Vous partiez combien de temps? Vous étiez là-bas pour 2-3 semaines, quelque chose comme ça?
En fait, lui était déjà là-bas.
OK.
Et puis moi, je partais toute seule. Mon voyage, c'était prévu, le retour était prévu pour le 2 février.
OK.
OK, donc c'était presque un mois. Mm-hmm. Et là, arrive ce qui arrive, le 12 janvier, tremblement...
Oui, 3 jours après le mariage, tremblement de terre.
Tremblement de terre. Vous étiez où à ce moment-là?
Nous, on était dans la rue. Donc, on revenait chez notre photographe, finalement. On était en voiture. Et puis, c'est là que ça s'est mis à trembler, là,
okay.
À notre retour à l'hôtel.
Avez-vous ressenti les secousses? C'est dur en véhicule.
En auto, on sent moins en auto.
Ben en fait, au départ, on n'a pas vraiment senti. Moi, je savais pas trop ce qui se passait. En fait, il y a toujours un bruit sourd qui précède le tremblement de terre, ce qu'on n'a pas entendu à cause de la musique. Puis il y a toujours des petits tremblements qui commencent finalement lors du tremblement de terre, mais on ne les a pas sentis non plus parce qu'on était en voiture. Mais ça a duré une minute en tout. On a peut-être senti les 30 dernières secondes, là au moment où ça s'est vraiment mis à trembler. Là.
Mais est-ce que vous voyez autour de... À ce moment-là, est-ce que tu voyais autour de toi les édifices s'effondrer ou t'étais plus en campagne? Ou...
Non, on était en plein cœur de la ville, donc on était à Port-au-Prince, vraiment. Et puis, au début, non, on n'a pas vu ça. Ça a pris peut-être 15 secondes là, avant qu'on arrive à voir les bâtiments tomber. Mais on a vu, bon, il y a des gens qui sont tombés dans la rue, les palmiers qui brassaient d'un côté et l'autre. Et après ça, les bâtiments, oui, qui se sont mis à tomber, là, peut-être 15 secondes, après qu'on ait commencé, nous, à sentir le tremblement de terre. Parce que, comme je dis, au départ, on sentait pas vraiment les petits tremblements quand ça a commencé. Là.
C'est quoi la première chose qui vous passe par la tête à ce moment-là? Parce que là, tu vois tout ça aller, là, c'est...
Ben moi, je savais pas que c'était un tremblement de terre, en fait. J'avais jamais vécu ça. Donc, pour moi, c'était toute nouvelle expérience. J'ai regardé Sombrie pour lui demander ce qui se passait. Puis, il m'a dit « tremblement de terre, on sort ». Donc, ça a été rapide. Là, j'ai comme pas eu le temps de réaliser vraiment au moment où ça se passait ce que c'était. Une fois dans la rue, par contre, après être sorti de la voiture, bon, on sentait le sol qui tremblait sous nos pieds. Donc, là, j'ai comme vraiment réalisé. Là, puis, c'est là que l'adrénaline commence à monter et puis qu'on se met à courir dans tous les sens sans trop savoir où on va ni pourquoi on court finalement.
Là, ça doit crier partout, veux pas. Là, c'est...
Mais, oui, effectivement, mais... Avant ça, peut-être, est-ce que les gens là-bas s'attendaient à avoir un tremblement de terre? Est-ce que c'est une zone un peu comme en Californie où la Californie s'attend toujours à avoir un tremblement de terre? Donc, est-ce qu'à Haïti, c'est un peu quelque chose qui est connu des gens qui se disent « Ah oui, un jour, on est propice peut-être à avoir un tremblement de terre » pour avoir cette réflexion-là immédiatement? C'est parce que les gens là-bas sont...
En fait, ils sont pas nécessairement habitués, selon moi, mais je sais qu'il y a eu quelques petits tremblements de terre. À l'occasion, il y en a 3 ou 4. Sans plus que ça, par contre, c'est sûr qu'Haïti, Port-au-Prince, est situé sur une plaque tectonique
ouais.
Où il peut y avoir vraiment des tremblements de terre assez fréquents, mais c'est pas si fréquent
régulier,
que ça,
ouais.
Non, ouais, pas des gros comme
puis
ça.
Pour dire à nos auditeurs, on est allé avant le début de l'émission, on a vérifié, et il y en a eu quelques-uns très importants, 1751, 1770, 1842 et puis 1946. Donc, c'est des tremblements de terre où
il y a même eu un tsunami, tu disais.
Ouais, c'est ça qui a été créé par le tremblement de terre de 1946. Où t'étais rendu, Doff, dans ta question?
Mais c'est ça. Quand on voit ça aller, je veux dire, c'est quoi qui te passe par la tête? Parce qu'effectivement, t'es en situation de crise. Les gens, j'imagine, ça hurle, ça crie, ça fait tous les temps un peu partout, tout autour de toi, là.
Oui, ça crie, mais je dirais que quand ça se passe, on n'a pas le temps de penser à rien. Comme je dis, la première idée qui te vient en tête, c'est de te sauver. T'as sauvé où? T'as sauvé pourquoi? Tu le sais pas, mais c'est de courir, c'est de t'en aller de là où t'es. Sauf qu'un tremblement de terre, ça tremble partout, fait qu'il n'y a pas une place plus sécuritaire que l'autre.
Non, c'est ça.
Puis en Haïti, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est de chaque côté de la rue, il y a des murs qui sont érigés en ciment. Et puis derrière les murs de ciment, il y a des bâtiments. Et tout ça tombait de chaque côté de nous. Donc après un 15 secondes, là, il s'est mis à avoir de la poussière, un nuage de poussière incroyable. On voyait plus la voiture, on voyait plus rien. Là. Même le voisin qui était peut-être à même pas un pied de nous, on le voyait pas là.
Fait que vous êtes les deux ensemble, vous tenez tous les deux, j'imagine.
Non,
puis...
non, c'est pire que ça. Parce que quand on était en voiture, on était chacun de notre côté parce que Sombrie conduisait. Et puis on avait des amis qui étaient derrière. Donc, quand Sombrie a dit c'est un tremblement de terre, on sort. Moi, je suis sortie de mon côté avec son ami Marcel qui était là aussi. Donc, on s'est mis à courir dans la rue. Je suivais Marcel parce que, bon, Sombrie, je le voyais pas. Il est sorti de l'autre côté de la voiture. Et puis, Marcel, je l'ai perdu de vue aussi. Donc, je me suis mise à crier.
T'étais à côté, en plus?
J'étais à côté, oui. Puis, je me suis mise à crier parce que, bon, je le voyais plus. Il m'a attendu. Donc, je l'ai comme vu semi-réapparaître, en fait. Il m'a pris la main et puis on a continué de courir. Sauf que Sombrie, je le voyais plus. Donc, pendant presque une minute, je voyais plus Sombrie, donc je criais son nom, il m'entendait pas parce qu'il y avait tellement de bruit, les bâtiments qui s'effondrent, donc on pouvait presque pas s'entendre. Donc il m'entendait pas, puis il me trouvait plus lui non plus. Donc de son côté, il avait peur, il savait pas ce qui se passait, d'autant plus que les murs tombaient de chaque côté, donc j'aurais pu être sous les décombres, mais il savait pas aussi. Et puis après peut-être une minute, là, on s'est comme retrouvés, donc c'était un soulagement, mais pendant une bonne minute, là, on n'avait plus contact ni lui ni moi là.
Wow. Plus de contact visuel, plus de contact auditif. Là, donc,
t'es vraiment seul au monde à ce moment-là.
Et toi,
parce que c'était
est-ce que c'était ta première visite à Haïti?
Non, c'était la quatrième fois que j'allais quand même.
Donc, sans dire que t'étais complètement à l'aise, là, je veux dire, c'était un endroit que tu connaissais un peu. Là.
Oui, je connaissais, sauf que si... bon, maintenant, ça va mieux. Après un mois à se promener dans les rues et à vivre dans la rue, on apprend à connaître un peu plus le pays. Mais on se promenait souvent en voiture, rarement à pied. Ce qui fait que les rues, je les connaissais un peu, mais pas tant que ça. Donc, si j'avais été laissée à moi-même, sans personne, je suis pas sûre que j'aurais pu me retrouver, en fait, au départ. Parce qu'il faut dire que le tremblement de terre est arrivé seulement une semaine après que je sois arrivée. Puis dans la première semaine, on avait autre chose à faire que de se promener dans la rue, on préparait le mariage et tout ça.
Mais comme toi, Sombri, je veux dire, toi, tu viens de, t'es natif de là-bas, je veux dire, tes parents sont là-bas, t'as peut-être des frères, des sœurs qui sont là-bas, ce qui te passe par la tête, ça doit être, tu sais, je veux dire, toi, c'est correct, t'es avec Sombri, mais en tant que tel, t'as pas vraiment, outre les beaux-parents, je veux dire, t'as pas vraiment de connaissances nécessairement, mais quand tu es natif de là-bas, il doit avoir un feeling qui est assez spécial aussi, là.
Oui, parce que quand c'est arrivé, la première chose, après avoir vu Annick, c'était d'aller voir comment est-ce que vont mes parents, mes frères et sœurs.
Puis, tout était correct pour eux? Ils ont senti ça? Ils ont eu le temps de...
Oui. Ils étaient tous dans la maison. Okay. La maison ne s'est pas effondrée, mais bon, c'est fissuré.
OK.
Donc,
ils ont eu le temps de sortir, justement, de la maison, autrement dit.
Est-ce que vous demeurez à Port-au-Prince ou plus en retrait? Ou c'est carrément dans la ville?
Non, c'est à Port-au-Prince.
C'est à Port-au-Prince, OK, directement. Et bon, une fois ça sécurisé, avez-vous un cellulaire? Avez-vous un moyen de communiquer lorsque c'est arrivé?
En fait, quand c'est arrivé, tout ou presque s'est écroulé. Ou, comme Sombri a dit, souvent, comme sa maison, lui, s'est pas écroulé, mais c'était assez fissuré. Mmh. Donc, les communications ont malheureusement été rompues. Ouais. Il y a seulement une compagnie de téléphone qui s'appelle Aitel, qui était fonctionnelle après le séisme. C'est par cette ligne-là que ma sœur a fini par me rejoindre après le séisme, 3 heures après. Sauf que après avoir réussi à me parler, on s'est rendu compte que la communication Aitel, probablement qu'il y avait eu des problèmes au niveau des tours, c'était non fonctionnel aussi. Donc pendant un bon 48 heures, on n'a pas eu de communication à l'extérieur du pays. Donc pas d'électricité, pas d'Internet, pas de télé, pas de radio, pas de nouvelles. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc, on n'avait pas de communication à l'intérieur même du pays pour savoir comment les gens qu'on connaît vont, ni à l'extérieur.
Et ça, quand on le vit, ça doit être quand même assez effroyable parce que nous, on n'a pas idée aujourd'hui. Hein. On a toujours la télé, le téléphone, l'accès Internet. Mais quand tout ça coupe, là, tu te sens, j'imagine, dépourvu de moyens. Là.
Oui, parce que là, on n'a pas de moyens de savoir ce qui se passe. Et puis, d'autant plus que ma sœur, quand elle avait réussi à me rejoindre le mardi, le soir du séisme, à 7 heures, à 19h, elle m'avait dit qu'il y avait une possibilité de tsunami. Donc, nous, dans notre tête, il y avait toujours cette possibilité-là.
Oh.
Mais ma sœur m'a dit que à 22h, le jour même, le mardi, on a dit à la télé ici qu'il n'y avait plus de problème de tsunami, que c'est dans les 4 premières heures suivant le séisme, qu'après ça, les problèmes étaient terminés, en tout cas pour le tsunami. Mais nous, c'est quelque chose qu'on ignorait. Donc, pendant les 48 heures, on n'a pas eu de contact avec ma sœur ni avec le reste du monde. Pas de nouvelles aussi.
Peur de ça,
on avait toujours la peur du tsunami. D'ailleurs, pendant la nuit, à un certain moment, on a dû fuir une menace de tsunami alors qu'il n'y en avait pas. Donc, ça a été un autre stress aussi, plus les autres secousses qu'il y a eu aussi.
Mais là, quand ça se produit, êtes-vous capable de reprendre votre véhicule puis de vous déplacer ou vous laissez...
Après le séisme?
Oui, ou vous laissez ça là puis...
Bon, quand la Terre a eu terminé de trembler... Marcel, la personne avec qui on était, a retourné finalement à la voiture pour la reprendre. Et puis oui, on a remonté dans la voiture. Question de la stationner au bon endroit, parce que quand on sort de la voiture lors du tremblement de terre, on sort pas les clés, on barre pas les portes,
j'imagine.
On les ferme pas, on fait autre chose, qu'on a autre chose à faire que ça. Donc après ça, ça a été de reprendre la voiture, de la stationner dans un endroit où est-ce qu'il y avait peu de chances que les murs tombent, parce qu'on sait pas aussi à ce moment-là s'il y aura d'autres
secours. Ouais,
on sait pas.
Puis... est-ce que là, les gens autour, ben c'est sûr que bon, petit à petit, les gens réalisent tout ça, mais est-ce que vous avez déjà, immédiatement, là, j'imagine, senti la détresse s'installer, puis les gens qui, j'imagine, là, constataient là, les peut-être déjà des pertes, là, parce que ça a dû être assez rapide, là, quand ça s'effondre, là, il y a des gens qui, rapidement, ont conclu immédiatement qu'ils venaient de perdre des proches.
Bon, c'est sûr que oui, parce que nous, quand on a réussi à reprendre la voiture, on l'a stationnée, les rues étaient non praticables, donc on ne pouvait plus circuler en voiture, donc on est monté chez les parents de Sombri. Et puis, en cours de route, on a vu, oui, des gens qui étaient, les bâtiments sont tous tombés, donc il y a des gens qui étaient au gym, qui sont par terre, il y a des gens qui avaient des pieds presque arrachés, on a vu... une dame qui était complètement brûlée, donc qui est décédée à peu près 30 secondes après qu'on soit passé. Des gens, bon, ça crie, ça pleure, ça prie, parce que les gens en Haïti sont très, très, très croyants, donc ça prie fort dans les rues. Ça chante aussi des chants de louange parce qu'ils sont, ils ont été sauvés, ils ont été épargnés. Mais oui, les gens étaient conscients qu'il y avait beaucoup de pertes de vie humaine. Et puis, bon, on le voyait de toute façon. On se promène dans les rues et puis on voit des corps qui sont allongés par terre.
Et une chose qu'on peut dire immédiatement à nos auditeurs, parce qu'on va en parler tout à l'heure, toi, tu es infirmière de formation.
Oui,
donc,
je suis infirmière.
Tu travailles dans le domaine de la santé.
Oui.
Et tu, à ce moment-là, constates ça. Donc, tu devais te sentir un peu concerné, là.
Concernée, mais
interpellée.
Aussi, oui, ça c'est sûr et certain, mais j'étais incapable de réfléchir à ce moment-là, j'aurais pas pu intervenir malheureusement. J'ai été vraiment sous l'état de choc pendant presque une semaine. Donc comme je dis ici, la misère, on la voit pas ici à Québec, mais au Canada en général, c'est sûr qu'il y en a un peu, mais c'est pas aussi grand et aussi percutant qu'en Haïti. Donc, le choc que j'ai vécu m'a comme déconnectée complètement de la réalité pendant presque une semaine. Donc, j'étais incapable là, de réagir, ni même de, malgré que je sois infirmière et que je sois habituée de répondre en situation d'urgence. Dans ce cas-ci, ayant vécu le choc, j'étais incapable de fonctionner.
Ouais, parce que là, t'étais part of it, là, comme on dit. Mm-hmm. Là, t'étais
pris par surprise complètement.
Oui, à l'intérieur de la crise.
Ouais.
Donc, mais là, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Parce que là, ça vient de modifier là, votre voyage, puis carrément aussi le but du voyage en question. Et là, vous pensez à quoi? À sécuriser la famille, à vous relocaliser? Vous dites la maison est fissurée. On s'installe où à ce moment-là?
Immédiatement après le séisme, le but, c'était de voir si tout le monde était toujours vivant, parce que c'était là notre crainte. En fait, on savait pas à ce moment-là que la maison n'était pas tombée, puisque la majorité des bâtiments le sont.
Oui, c'est ça.
Donc, c'était vraiment de retrouver les membres de la famille. Quand on a réussi à faire ça et qu'on a vu que tout le monde était en vie, c'était vraiment de se sécuriser pour éviter, s'il y avait d'autres secousses, d'être blessé. Donc, le quartier, mais tout le quartier, finalement, là où Sombrivi s'est réuni au même endroit. Donc, il faut dire qu'en Haïti, souvent, les quartiers, quand ça fait longtemps que les gens vivent dans le même coin, ça devient vraiment une grande famille. Donc, le quartier de Sombrivi ne voulait vraiment pas se laisser. Donc, tout le monde vivait dans la rue. On s'est trouvé un espace assez sécuritaire dans la rue pour vivre, en tout cas pour dormir la première nuit, parce que le séisme s'est passé à 4h52 de l'après-midi et à 18h, il fait noir. Donc, habituellement,
mais,
ça laisse.
Mais je vais insister.
Puis là, tu n'as plus d'éclairage, il n'y a plus rien à
ce moment-là. Non, c'est ça. Puis c'est la menace d'autres secousses aussi.
Là, tu entends encore des gens qui doivent crier, tu entends des gens qui doivent être pris, veux pas, en dessous des pierres. Tu sais, je veux dire, l'image sonore puis visuelle de tout ça, ça doit être hallucinant. Là, je veux dire, je sais pas, je n'ai pas vécu, mais je me mets dans le contexte. Là, quelqu'un qui a été touché, puis là, il fait noir, puis. C'est pas trop,
mais
là, ça doit.
Il y a un petit détail que je voudrais peut-être savoir, c'est que nos médias ont semblé dire que, bon, il y avait des installations de fortune. Quand tu dis t'installer dans la rue, là, c'est quoi pour le bénéfice de nos auditeurs?
Nous installer dans la rue, il faut dire que les organisations ont été là quand même assez rapidement, sauf qu'il y a tellement de gens dans le besoin qui peuvent pas malheureusement subvenir aux besoins du pays en entier, parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue à ce moment-là. Donc, et puis le temps que les secours arrivent, ça prend quelques jours aussi. Donc, la première nuit, en fait, c'était seulement il y a des gens qui dormaient dans la voiture, des gens qui ont réussi à rentrer sous les décombres, chercher quelques couvertures. C'est de s'allonger par terre dans la rue.
À la belle étoile.
À la belle étoile, mmh. Vraiment, oui.
OK, donc, il y avait vraiment des installations de fortune, comme tu dis, il y en a peut-être qui avaient des tentes, des petites choses comme ça, mais
au
là,
départ,
il y avait rien de tout
tente.
Ça.
Non, au départ, personne n'avait de tente.
Mais là,
vraiment dormir dans la rue.
Parce que là, on a entendu parler immédiatement des problèmes en eau potable. Tu disais l'électricité. Là, il vient quoi, là? Comment on fait pour survivre, là? Il y a de la nourriture, à un moment donné, qu'il faut trouver.
Comme je dis, étant donné que là où Sombrivi vit, le quartier, c'est comme une grande famille. Donc, personne ne va laisser personne sans manger ou sans
boire. Beaucoup de soutien.
Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens s'entraident. Donc, parfois, les gens peuvent avoir un bol de riz. Donc, tout le monde court après la personne qui a le bol de riz. Et puis, on mange un à tour de rôle, finalement, dans le même bol de riz avec la même cuillère. Et puis, si on est 13 à manger le même plat, bien, on prend une ou deux cuillères chacun et puis on fait le tour comme ça jusqu'à ce que le plat soit vide. Même chose pour les bouteilles d'eau, parce que l'idée, c'est de limiter un peu notre consommation pour s'assurer qu'on aura pour le temps qu'on aura besoin. Parce que là, on sait que si tout est tombé, les épiceries sont tombées, le port est non fonctionnel, l'aéroport est fissuré aussi.
Rien puis c'est qui peut arriver,
non,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Donc, on n'a plus rien, on n'a plus moyen de s'approvisionner.
Et dans les premières heures, est-ce que tu as immédiatement pensé à quitter Est-ce que tu dis, il faut absolument que je quitte?
Au début, oui. Je te dirais que...
Dans le moment de panique, peut-être?
Le premier soir, je pleurais, puis je disais à Sombri, pourquoi je suis pas au Canada, je devrais retourner au Canada, tout ça. Ce qui fait que le lendemain, le 13, Sombri m'a dit, si tu veux, on peut se rendre à l'ambassade, puis on va essayer de te trouver un avion pour que tu puisses repartir. À ce moment-là, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je veux rester ici, parce que dans ma tête, les gens, les Haïtiens qui sont là, ont vécu le séisme comme moi, et puis ils vivaient après ça avec les conséquences du séisme. Et puis je me suis dit, je suis ici, c'est pas pour rien, je dois vivre mon expérience à fond, et puis jusqu'au bout, ce qui fait que non, je voulais pas repartir après avoir bien réfléchi, puis un coup, le choc...
Pas décanter un peu tout
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
En passant, j'ai Botrax qui vous salue.
Oui. Gentil.
Donc, puis
on le salue aussi.
Il est très heureux de vous savoir parmi nous. Là. Il dit qu'il est très heureux.
Ouais. Salut, partner.
Yes, on le salue en passant, Botrax. Tout à l'heure, tu faisais mention de catastrophe, puis que, je veux dire, pas que tu désirais, mais que tu voulais à un moment donné peut-être expérimenter ça. Est-ce que, tout à l'heure, tu semblais dire que tu voudrais pas peut-être répéter l'expérience, mais est-ce que c'était l'idée que tu avais d'une catastrophe quand tu l'as vécu? Ou c'était multiplié par 20 000. Parce que, tu sais, nous, on regarde ça de l'extérieur, mais c'est on n'est jamais non, des acteurs. Pas, donc, on peut pas avoir cette sensibilité-là. Donc, moi, j'imagine certaines choses par rapport à une catastrophe quand ça se produit, mais est-ce que finalement, tu dis, écoute, j'étais à côté de la traque, là, une catastrophe, c'est quelque chose d'insurmontable et qu'il faut absolument éviter?
En fait, oui, je voulais vivre une catastrophe pour bien des raisons. Et puis, effectivement, après avoir vécu ça, je me suis dit, waouh, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Je savais qu'une catastrophe, ça amenait beaucoup de conséquences, qu'il y avait des décès. Autant que ça, j'étais loin de me douter. Je savais aussi que, bon, peut-être que la vie après la catastrophe serait difficile comme ça. Effectivement, aussi, j'étais loin de me douter de toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Donc, oui, ça a été quelque chose quand même d'assez incroyable.
Donc, c'est beaucoup plus qu'on
beaucoup
peut se l'imaginer.
Beaucoup plus,
mais,
oui.
Moi, la question que j'ai, c'est l'instinct de survie. Quand ça arrive, là, parce que là, bon, tu parlais des épiceries, tout est tombé un peu partout, mais à quelque part, tu sais en partant que là, bon, l'eau potable, c'est pas évident, la nourriture, c'est pas évident, parce que nous autres, on voyait des images à la télévision, mais je veux dire, les gens qui sont là, c'est quoi, tout le monde se ruait vers les épiceries pour essayer d'aller trouver quelque chose? Je veux dire, c'est comment ça se passait vraiment de l'intérieur, parce que tu as un instinct de survie qui embarque, là, veux, veux pas, là.
Oui, pour les gens qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers qui sont assez proches, parce que c'est pas tout le monde, comme je dis, qui ont cette chance-là, le quartier de Sombrie, ça fait 32 ans que tout le monde vit ensemble, donc il y a comme une familiarité qui s'est développée. Mais les gens qui vivent ailleurs où ils n'ont pas cette chance-là, oui, c'est vrai que les gens étaient vraiment en panique et puis leur instinct de survie était assez fort. C'était bon, ils essayaient de voler les épiceries, tout ça. C'est pour ça que même pas 24 heures après le séisme, les propriétaires d'épiceries ont essayé de trouver des gardiens de sécurité armés, finalement, pour essayer d'avoir moins de vols.
Ça, on en a eu des vidéos qui ont filtré où est-ce qu'on voyait ça, justement.
Mais est-ce que le chaos qui s'installe, parce que là, il y a un petit chaos hein, qui se crée à chaque minute que ça avance, parce que, comme disait Duff, il y a l'instinct qui embarque aussi les gens qui... À un moment donné, il y a plus
aucune
loi. Tu sais qu'il
n'y aura plus d'eau, là. Tu sais qu'il n'y aura plus de ça.
Est-ce que vous avez eu peur à votre vie à partir de ce moment-là? Est-ce que vous avez eu peur d'être pillé, volé, ou c'est quelque chose qui vous a jamais traversé l'esprit parce que vous aviez l'impression, justement, de faire partie d'une communauté qui se soutenait?
Tout ensemble, oui.
Ben, on avait l'impression de faire partie d'une communauté, oui. Sauf que c'était pas c'est pas le fait de faire partie de la communauté qui enlève le risque finalement qu'on soit volé. C'est pour ça que pendant au moins même plus que la première semaine, il y a des gens qui ont été qui se sont eux-mêmes attitrés le travail finalement de circuler. Donc pendant la nuit, il y a toujours deux ou trois personnes
forme
qui
de garde.
Circulaient, c'est ça, qui faisaient une garde là au niveau près des gens qui dormaient finalement pour assurer la sécurité.
OK. C'est quand même louable de voir qu'il y a il y a des gens, il y a une partie de la population qui se sont mis un peu des processus en place de l'avant pour contrôler, parce qu'on a toujours l'impression que l'homme étant un être qui a un instinct animal, des fois...
Sans être mauvais, mais parfois peut être assez rough dans certains moments.
Ben, c'est ça, puis je pense qu'à quelque part, on a vu des images, c'est sûr, puis comme j'ai dit tout à l'heure, on a cherché à mousser le côté des sensations fortes, mais... Vous, de l'intérieur, vous aviez des images concrètes de tout ça. Est-ce que, si tu fais une gradation là, de 1 à 10, est-ce que tu mettrais un 10 sur 10 par rapport à tout ce qu'on a vu à la télé? Parce que je ne sais pas si tu as eu la chance de voir un peu ce qui avait été projeté. Est-ce que pour toi, c'est représentatif là, de ce que vous avez vécu ou on a peut-être filtré ou isolé, je ne sais pas, des cas en particulier où pour toi, c'est représentatif parce que ta famille devait te parler de certaines choses. Là. Quand ils prenaient contact avec toi, eux, ils voyaient à TVA ou peu importe le média, voyaient des images. Donc, quand ils disaient « Ah, ben on a vu ça à la télé », est-ce que toi, tu disais « Ben non, moi, j'ai pas vu ça » ou…
Mais c'était quand même assez représentatif. Il faut dire que nous, après la première semaine, la semaine suivant le séisme, comme j'étais arrivée en janvier, on avait une chambre de réservée à l'hôtel Le Plaza qui était au centre-ville, finalement, au Champ de Mars. Et donc, on avait la télévision à cet endroit-là. Donc, je pouvais suivre un peu le déroulement et on avait plein de journalistes qui restaient dans le même hôtel que nous. C'était assez représentatif, mais je dirais que sur certains points, peut-être que ça a été un peu filtré, oui, parce que les problèmes étaient au-delà de ce qu'on a pu voir à la télévision.
Ah oui?
Oui. Vraiment, on voyait vraiment les gens en détresse dans la rue et puis au Champ de Mars, entre autres, là où il y avait environ plus de 50 000 personnes.
Mais filtré, quand tu dis filtré, qui t'as l'impression qui filtrait un peu l'information? Les médias ou les autorités qui voulaient peut-être pas laisser aller des images ou…
Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que souvent quand on se promenait dans les rues, parce que nous, on est allé finalement au Champ de Mars, et puis j'avais l'impression que la réalité des gens dans la rue était au-delà de ce que pouvaient montrer les médias. Donc, je sais pas si les médias avaient pour but d'essayer aussi d'épargner un peu la communauté, soit d'ici ou de là-bas, je ne sais pas trop, mais je sais que en tout cas, c'était…
C'était pire là-bas, ça semblait pire, ouais, c'est ça.
C'était pire. Ou peut-être que moi, je le vivais pire aussi, parce que je ne suis pas habituée de vivre cette misère-là, entre guillemets, parce qu'en Haïti, j'ai vraiment connu la misère-là.
Parce que là, vous alliez vous marier, il ne faut pas oublier ça non plus, on s'entend. C'est ça, vous étiez mariés, oui. Mais je veux dire, tu es dans un mood où, écoute, c'est les vacances, c'est la joie, le bonheur, le plaisir, et puis d'un coup, bang, là, ça arrive, là.
Oui, effectivement. Puis aussi du fait qu'ici, on manque jamais de rien. Donc, au Canada, on a besoin de quelque chose. L'épicerie est à côté. Il y a des dépanneurs. Il y a les banques qui peuvent faire des prêts, tout ça. Mais en Haïti, ça fonctionne pas comme ça. Donc, tu dois te débrouiller pour survivre. C'est pour ça que je dis que peut-être que mon idée, finalement, du fait que c'était pire en Haïti que ce que les médias voulaient bien montrer, ça vient peut-être de ce fait-là aussi, du fait que moi, cette misère-là, je la connaissais pas et je la vivais bien malgré moi, finalement. Quoique je regrette pas d'avoir vécu aussi. Ça permet de remettre en perspective certaines choses.
Mais le peuple qui est là-bas, quand même, le peuple haïtien, il me semble, c'est un peuple qui est quand même, dans les dernières années, a été très touché par certaines affaires. T'sais, on a eu vraiment des grosses catastrophes qui sont arrivées. Le peuple semblait vraiment, malgré tout, se relever avec, tu sais, comme une envie de se relever puis de recommencer, de se retrousser les manches et tout ça. Et le moral des gens, parce que veut pas, au Québec, on peut pas dire qu'on est maltraité ou qu'on est badlocké par rapport à des séismes ou quoi que ce soit, mais là-bas, dans les dernières années, c'est quasiment coup sur coup qui est arrivé des grosses affaires de la nature là, qui font qu'à un moment donné, le peuple perd de morale, je ne sais pas, non?
Effectivement, ils ont été beaucoup, ils n'ont pas été épargnés dans les dernières années, sauf que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est très courageux, c'est des gens qui sont excessivement forts. D'ailleurs, quand on les regarde aller, on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'ils sont si forts que ça, de par les catastrophes qu'ils ont vécues sans arrêt depuis quelques années. C'est des gens aussi qui sont habitués, de par la pauvreté du pays, à se résigner. Donc, pour eux, croyant en Dieu comme ils font, c'était, eux ont été épargnés, donc c'était de continuer à vivre comme ça malgré les événements qui étaient arrivés.
Tu m'amènes une question avec la déclaration que tu viens de faire. Est-ce que pour toi, là, puis je dis pas de juger là, la religion catholique ou toute autre religion, mais le fait justement de croire en quelque chose, est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour un peuple pour passer à travers ce genre de tragédie-là?
Oui, en fait, les gens n'ont pas le choix.
Ça peut être la clé, même.
Les gens n'ont pas le choix de croire en quelque chose. Et puis de toute façon, je suis moi-même croyante, donc ça a été un peu aussi ma façon de m'en sortir aussi. Quand ça arrive, t'as pas le choix de t'en remettre à quelqu'un,
à un être,
peu importe les croyances des gens, t'as pas le choix. Sinon, c'est difficile de penser au travers. Et puis les gens, c'est ce qu'ils font. C'est peut-être ce qu'ils font leur force et puis leur capacité de s'adapter, de se résigner autant. Parce que j'ai jamais vu un peuple aussi fort que ça. C'est de les voir aller. C'est comme, ils ont vécu la tragédie. Et puis, bon, ils se sont dit, la vie étant ce qu'elle est, on doit continuer de travailler, on doit continuer la vie malgré les pertes qu'on a. Et puis, bon, essayer de recommencer à zéro si c'est possible. Et puis, les gens ont recommencé. Une semaine après le séisme, déjà, on voyait les marchands qui recommençaient à monter leur petit kiosque dans la rue. Et puis, la vie était en train de reprendre son cours.
C'est ça, ça n'a pas été long, honnêtement. De ce qu'on a vu à la télévision non plus, ça a paru très rapide, justement, parce que... OK, c'est arrivé à fatalité, mais là, on repart tout de suite. Puis,
ça, une semaine et puis c'était fait.
Ben, je me dis que le fait qu'on n'entende plus parler maintenant, c'est parce que ça doit être plus intéressant pour les médias, donc ça a repris un cours ouais. qui est légèrement plus
je sais que les médias stable. Veulent le sensationnel tout le temps. T'sais, je veux dire, là, au moment où ça commence à se régler, puis ça commence à redevenir normal, malheureusement, pour les médias, c'est plus intéressant, c'est plate à dire, mais je pense que c'est un peu comme ça qu'ils voient ça.
En fin de compte, les médias ont rapidement eu une stratégie de suivre un peu la détresse des gens. Fait qu'ils se sont déplacés de Port-au-Prince vers les communautés qui s'installaient un peu à l'extérieur de Port-au-Prince. Donc, je pense qu'ils nous ont pas monté la progression qu'ils pouvaient avoir justement dans un secteur donné là au jour le jour, parce qu'ils déplaçaient un peu les caméramans puis les
journalistes. Et d'ailleurs, journalistes. Qu'est-ce que ça a fait? Il y avait pas un groupe de Québécois ou qui était pas censé de construire des maisons là-bas, où il y avait un programme, un projet, où il me semble qu'il y a quelque chose qui nous parlait à la télévision, qui voulait construire, je sais pas combien de maisons en Haïti, là.
Oui, des usines, je pense, qui devaient construire environ 2000 maisons qui devaient envoyer par bateau en
Qu'est-ce
Haïti.
Qu'est-ce que ça a fait? Ça, avez-vous eu des suites de ça? Moi, j'ai pas entendu parler de ça du tout.
J'ai pas entendu ça non plus.
Ben, c'est un peu ce qui est déplorable, là. Ouais. C'est sûr que ça a occupé, là, l'espace médiatique partout dans le monde, là, je dirais, 1, 2, 3 semaines de façon intense. Là, on est un peu sur...
L'après-coup.
Oui, l'après-coup, et on passe à autre chose. C'est sûr qu'il y a les Jeux olympiques aussi qui prennent beaucoup de place médiatique. Par rapport à cette couverture-là, puis tout à l'heure, on parlait là que le regard de l'intérieur pouvait être encore plus dramatique par rapport à ce que tu voyais comme image. Est-ce que t'en as vu des journalistes? Est-ce que tu te sentais comment tu te sentais par rapport à je veux pas dire ce cirque-là, mais est-ce que t'as senti à un moment donné que c'était un peu un cirque aussi d'avoir ces des journalistes comme ça, où c'était des cas isolés puis tu les voyais pas?
Bon, nous, l'hôtel où on logeait, l'hôtel Le Plaza, comme je dis, c'est vraiment l'hôtel où les journalistes logeaient. Donc il y avait des journalistes à peu près partout dans le monde. Et puis ils se montraient leurs trucs, ça discutait tout le temps. Donc oui, il y avait une masse médiatique assez importante. Est-ce que c'était une espèce de cirque, ça, je sais pas.
Je sais pas.
Sauf que je sais que les gens cherchaient beaucoup les sensations.
OK. Parce que tu sais, il y a assez souvent des journalistes qui essaient de piquer le micro en dessous du nez des gens pour leur faire dire des choses.
Pour les voir pleurer.
Pour les voir pleurer. Est-ce que t'as été sollicité pour donner des témoignages ou parler, non?
Non, je sais pas si c'est du fait que je sois blanche et puis je n'étais pas un intérêt particulier pour eux, du fait qu'ils devaient se douter que j'avais pas perdu de membres de famille très proches, excepté là, la belle famille qui aurait pu... mais encore là, ils savaient pas que je venais de me marier aussi. Mais non, j'ai pas eu de... Personne n'est venu me parler, personne n'a posé de questions, rien.
OK. Tu loges tu parles du Plaza. Donc ça, c'est dans les semaines qui ont suivi.
Mm-hmm.
Et là, c'est ça. Toi, t'as débuté... Parce que là, tout à l'heure, on a parlé du fait que t'as peut-être eu un moment donné l'intention de quitter, mais finalement, t'es resté. Et là, tu t'es impliqué à travers la relève qui s'est opérée.
Non, je me suis pas... vraiment pas. J'étais vraiment déconnectée.
Oui,
j'étais pas là. Okay. Mais c'est sûr que on est monté avec la famille de Sombri. Mais outre ça, non, faut dire aussi que les organisations qui étaient là, c'est des organisations qui sont assez liées. Et puis il y avait le maximum de personnel qu'il devait avoir, j'imagine. Okay. Mais non, j'ai pas eu à faire partie de l'aide humanitaire finalement qu'il y avait là, malgré mes compétences et mon expérience ici.
J'étais sous une autre impression, moi aussi. Ouais.
De toute façon, je suis pas sûre que j'aurais été capable aussi du fait que je suis pas partie dans cet esprit-là. Et du fait que je suis nouvellement mariée, donc je vais être avec mon conjoint. Et comme on sait pas s'il y aura d'autres secousses, parce qu'il faut dire que dans les 3 semaines après le séisme où j'étais là, il y a eu environ 57 petites secousses. Ce qui fait que on savait pas trop s'il allait en avoir d'autres. Donc de m'en aller dans les rues, là, où il risquait d'avoir encore des secousses et tout ça, j'étais peut-être pas nécessairement sécuritaire aussi. Je me sentais pas en sécurité.
OK. Puis, le fait que tout ça arrive, là, je veux dire, à un moment donné, on entendait beaucoup parler des ambassades canadiennes qui étaient à la recherche de Canadiens. J'imagine donc que tu faisais partie des recherches.
Oui, au départ, effectivement, quand ma sœur a entendu le séisme, elle savait que j'étais à Port-au-Prince même. Donc, le réflexe premier qu'elle a eu, ça a été de m'inscrire finalement sur des listes de recherche, dont celle de la Croix-Rouge, entre autres. Mm-hmm. Et puis, on m'a annoncé à Radio-Canada étant une personne manquante à l'appel.
Pendant plusieurs jours.
Pendant plusieurs jours, oui, on a eu l'occasion d'entendre mon nom.
Ah oui, OK, t'as fait partie des gens qu'on recherchait,
mais
là,
mais en fait,
qui ont été annoncés.
On m'avait trouvé à ce moment-là, parce que j'ai parlé à 19h le mardi, le 12, avec ma sœur au téléphone. Mais il n'y a pas eu de communication qui s'est faite. Moi, j'avais pas la possibilité de m'en aller à l'ambassade aussi, parce que les rues étaient non fonctionnelles, comme je disais. Et du fait aussi qu'à l'ambassade, ça a été très difficile. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui attendaient à la porte. Donc, c'était impossible pour nous de réussir à parler à quelqu'un. Ce qui fait que j'ai pas pu m'inscrire, ben, pas pu aviser finalement que j'étais toujours
dans les
en
délais
ligne.
Que tu aurais peut-être espéré.
Exactement.
On a quelqu'un en ligne. Oui, hello?
Oui, regarde, moi, c'est pour savoir si... j'ai vécu le 11 septembre, moi, puis je veux savoir si c'est un peu similaire. Si vous avez eu la misère à faire la transition de quitter le pays, parce que dans le fond, on se sent comme un peu impuissant hein, au début, mais après, on a comme l'impression qu'on on a de quoi à apporter au pays. Pendant que moi, quand c'est arrivé sur le 11 septembre, on a comme l'impression qu'on a besoin de rester là, puis on a besoin de les aider. Je sais pas si eux, si ont eu de la misère à venir ici, puis s'ils sont encore attirés à vouloir retourner là-bas, puis donner un coup de main.
Effectivement, quand c'est arrivé, mon idée n'était pas à aider, étant donné que j'étais sous le choc. Mais effectivement, quand était le moment de repartir, j'avais pas nécessairement envie de repartir. J'ai même dit à mon conjoint que je voulais rester là. Donc, et puis s'il n'avait pas pu revenir avec moi, mon idée c'était de revenir ici, régler mes choses ici, puis repartir dans la semaine suivante. Là. Donc, effectivement.
As-tu l'impression aussi que t'as comme de quoi maintenant qui est à l'intérieur de toi qui fait que tu fais comme partie un peu de... Je te dirais pas le peuple haïtien, mais de cet événement-là.
Oui, ben en fait, je dirais moi-même le peuple haïtien parce que quand j'ai du fait que je suis allée souvent en Haïti, je commençais déjà à me sentir un peu chez moi. Et ayant vécu ça au même titre qu'un haïtien, et puis ayant vécu les événements comme eux, et puis m'ont vraiment inclus dans leur monde, je me sens un peu, oui, partie intégrante du pays maintenant. Et puis c'est peut-être la raison pour laquelle j'aimerais bien retourner.
OK. Puis disons, en dernière question. Lorsque tu te fais interroger par rapport à Haïti, par le monde ou comme là, à soir, l'émission, t'as-tu l'impression des fois que tu l'as vécu, t'as vu c'était quoi, mais on dirait qu'à un moment donné, on devient tellement positif par rapport à ça, on a l'impression qu'on a besoin d'aller aider, on se sent comme inutile ici, on a comme l'impression que c'est un temps perdu, puis t'as hâte de retourner là-bas pour dire, bon, mais regarde, mettre la main sur la peau d'un Haïtien, puis dire, regarde, on va se serrer les coudes ensemble, puis on va donner un coup.
Oui, effectivement, ça fait un peu cet effet-là. On a l'impression qu'ici, du fait que personne, en tout cas, on peut pas dire personne, mais du fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont dans la misère ici, sachant très bien qu'il y a même des membres de notre famille qui sont là-bas présentement, qui sont un peu dans cette misère-là aussi avec l'alimentation et puis l'eau un peu restreinte, même beaucoup. Et effectivement, ça donne envie de repartir assez rapidement pour aller essayer de les aider, puis ça fait en sorte qu'on se sent vraiment impuissant ici au Canada.
As-tu l'impression que ce pays-là va se remettre de cette histoire-là ou ça va être changé pour le restant de leur vie finalement? Parce que tu regardes New York, tu vas à New York, oui, c'est nettoyé, c'est tout le kit, mais il reste que on voit encore les traces dans le sens que les traces émotives, les traces des personnes avec qui tu parles, tu vois que la vie a changé depuis ce temps-là puis ça ne reviendra plus jamais pareil.
C'est sûr que je pense pas que la vie des gens a repris le cours normal. Mais je pense pas que Haïti se remette totalement de cet événement-là. En tout cas, pas dans les années à venir, c'est sûr et certain. Puis je pense que les gens vont rester de génération en génération. Je pense que ce sentiment-là par rapport à l'événement va demeurer, oui.
C'est ce que je pense. Merci. Bonne chance.
Merci ton commentaire.
Oui, merci à toi.
Parce qu'effectivement, tu le parlais de génération en génération. Tout à l'heure, bon, sur Wikipédia, on nous dit en date d'aujourd'hui. C'est Wikipédia, là, c'est pas quand même un recensement officiel, là, mais assez souvent les chiffres ou les informations qu'on retrouve là-dessus sont assez véridiques. On parle en date d'aujourd'hui de 230 000 personnes déclarées mortes. Donc, c'est beaucoup de gens. Ça fait des trous là, à l'intérieur de plusieurs familles et ça laisse des marques. Là. C'est des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des jeunes enfants qui étaient l'espoir de plusieurs familles. Donc, on peut pas effacer ça, même en reconstruisant des édifices. On peut pas effacer ces morts-là. On ne peut que vivre le deuil sur les années qui vont s'en venir. Notre auditeur t'a posé la question justement, ton sentiment de peut-être d'impuissance que tu peux vivre au Québec, puis le fait qu'on est un peu déconnecté de tout ça parce qu'on est vraiment pas impacté de façon directe par tout ça. Est-ce que tu crois que on aurait intérêt à s'impliquer davantage en tant que collectivité, je parle de Québec, là, qui envoyait des gens, comme on faisait déjà un peu avec la police, les premiers répondants, l'armée, mais à d'autres niveaux, là, vraiment des entreprises qui, je pense, des entreprises en ingénierie, des entreprises de services, peu importe, là, je pense, le secteur, parce que tout est un peu à refaire. Est-ce que ton message aussi, ça serait de dire à ces entreprises-là, à ces gens-là au Québec, d'aller s'investir là-bas?
Oui, c'est sûr et certain, sauf que je dirais que Haïti, avant même d'avoir besoin de gens, a vraiment besoin d'argent. On dit que pour reconstruire le pays, ça prendra environ 10 milliards de dollars pour arriver à le reconstruire. Donc, Haïti, c'est un pays où il y a énormément de bras, énormément de gens. D'avoir des ingénieurs, avoir des compagnies spécialisées ici, peu importe le domaine, ce serait une bonne chose, oui, mais pas en quantité industrielle non plus. Parce qu'ils ont surtout besoin d'être dirigés et puis d'être conseillés finalement. Sauf qu'on a aussi besoin en Haïti de faire travailler les gens qui sont là, oui, parce que les gens qui sont là n'ont pas d'argent, n'ont plus rien, n'ont plus de travail, n'ont plus de maison et ont besoin de se reconstruire une vie aussi. Donc je pense que le peuple haïtien a beaucoup plus besoin d'argent que d'aide de bras finalement, pour le moment en tout cas.
Que d'aide humaine.
C'est ça, oui.
Puis justement, l'argent qui pourrait servir à aider à reconstruire le pays, est-ce que tu sens que là-bas, il y a une structure, parce que il y a eu beaucoup de critiques envers le gouvernement là-bas, envers les politiciens. Est-ce que tu as l'impression que si on enlève les politiciens qui sont peut-être plus critiqués, que la couche, là, justement, de la structure organisationnelle du pays est capable d'absorber cette charge-là puis de livrer la marchandise sur une longue période, là, est-ce que justement, un processus formel, tantôt tu disais, ben, des banques, des firmes, là, qui peuvent offrir des services de l'intérieur, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont la capacité de le faire?
Oui, je pense qu'ils ont la capacité de le faire. C'est sûr qu'il faut un peu exclure le gouvernement aussi. René Préval, c'est sûr qu'il fait en ce moment probablement le maximum de ce qu'il peut faire, sauf qu'en Haïti, la classe politique a habituellement En fait, on dit que les gens vont plutôt essayer de garder l'argent pour eux, les politiciens, que d'essayer de distribuer au peuple. Et c'est ce qui s'est passé dans les années précédentes aussi. Il y avait des routes qui auraient dû être faites qui n'ont pas été refaites. Donc, je sais pas.
Le niveau de confiance des Haïtiens par rapport au gouvernement n'était pas très élevé.
Avant, non, pas vraiment.
Okay.
Présentement, avec René Préval, je ne sais pas ce que les Haïtiens en pensent, peut-être que mon conjoint...
Pas du tout.
Non, on fait signe que non. Donc, en tout cas, ça, on a un point de similitude. Au Québec aussi, on s'attend pas grand-chose de nos politiciens. mais c'est sûr que ça peut aider là des dirigeants, mais ça prend une structure aussi. Tu sais, les gens sur le terrain, un premier ministre ou un ministre peut pas tout faire. Là.
Non, c'est sûr. Mais peut-être que l'idée d'envoyer des gens, des compagnies spécialisées dans différents domaines ne serait pas une mauvaise idée. Si le peuple québécois, canadien, peu importe, fournit les fonds à ces compagnies-là, donc qui envoie, que ce soit la compagnie qui soit représentée en Haïti avec quelques employés de cette compagnie-là, qui engage les gens sur place, peut-être que ce serait mieux à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'est qu'Haïti n'a pas nécessairement besoin d'hommes présentement, mais beaucoup plus d'argent. Mais de donner des fonds à une compagnie, ça pourrait être intéressant.
De toute façon, il y a la main-d'œuvre locale est présente. Tout ce qu'il faut, c'est...
Et puis, ils veulent travailler. Ils veulent reconstruire leur pays. Parce que les Haïtiens, c'est un peuple qui veulent s'en sortir. Et puis, donc, ils ont toute la volonté du monde, mais il manque l'argent, malheureusement.
Ouais. Et de l'expertise aussi.
L'expertise, aussi.
Puis, parce que je vois que quand même, là, on estime à 1 million de personnes sans foyer. Ces gens-là, j'imagine, doivent penser plus à se relocaliser actuellement, à s'établir un lieu. Mais c'est beaucoup de gens qui doivent participer à cette reconstruction-là, parce que on parle de 1 million de sans-abri. Ça représente beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de choses à mettre en place. Je me dis, à long terme, oui, l'argent va les aider, mais il va falloir aussi leur donner un nouveau service. Par rapport à l'argent, tout ce qui a été recueilli, les levées de fonds, est-ce que tu as senti durant le temps que tu étais là-bas que tout ça se mettait en marche? Est-ce que tu as vu là-bas parce qu'on a parlé de l'aide humanitaire, est-ce que tu as eu l'impression que ça a été long ou tu as vu des choses apparaître là infimes, même si c'était le plus petit possible là, peut-être comme changement, est-ce que tu en as vu ou tu dirais finalement tu n'as pas vu grand-chose?
Bon, je sais que l'aide humanitaire était présente. Je sais qu'ils ont fait leur possible aussi avec la quantité de population qui avait rien à manger, qui avait pas de logis, tout ça. Je sais que le travail est très difficile. Sauf qu'effectivement, je me suis rendu compte que l'aide humanitaire était longue à venir. Donc, l'endroit où Sombri habite, ça a pris environ 2 semaines avant qu'on puisse avoir un sac de riz et puis de l'eau potable.
Ah ouais.
environ 2 semaines. Mais il y a tellement d'endroits à couvrir aussi. Et puis, bon, ça a été quand même assez difficile. D'autant plus aussi qu'il n'y avait pas nécessaire. Le port était non fonctionnel. Donc, l'aide humanitaire devait passer par l'aéroport. Et puis, l'aéroport en Haïti, c'est quand même un petit aéroport. C'est pas très grand, c'est pas très gros. Ce qui fait que les vols devaient être limités aussi. Et puis, ça n'a peut-être pas aidé finalement à l'aide humanitaire.
L'aide humanitaire était là, mais c'était surtout dans la coordination.
Oui, c'est ça.
Ça ne doit pas être évident, c'est ça, gérer tout ça.
C'est plutôt ça, la coordination. Puis le...
Mais le matériel, lui, a pris un certain temps. La nourriture, ça c'est...
Il faut comprendre que les gens doivent quand même organiser un plan aussi pour ça.
Je veux dire,
pas du jour au lendemain, paf, tout est fait non plus.
Surtout que les ports d'entrée sont limités, fait qu'il faut que tu t'organises avec ce que tu as.
Exact.
Mais ce que je veux dire par là, une personne, quand tu as faim, je veux dire, c'est bien beau la coordination, tout ça, mais tu vas avoir ton bol de riz, tu vas avoir ton eau. Je pense que à ce niveau-là, on aurait. Je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques, puis je sais que les aéroports, tout ça, mais. Je peux pas croire qu'on n'a pas des avions cargo qui peuvent pas peut-être amérir de façon
ou laisser tomber des choses avec ce soit un hélicoptère ou
pas un hélicoptère.
Mais ça peut être risqué à un certain point parce qu'il faut dire que les gens sont affamés, les gens n'ont pas mangé depuis 3-4 jours et puis le fait de laisser tomber la nourriture par avion, ça peut créer des bagarres. Ouais, et puis il y a des gens qui sont armés avec des couteaux qui la seule chose qu'ils veulent c'est d'avoir à manger, c'est ça.
D'ailleurs, il y a des hélicoptères qui ont essayé puis il y a des gens qui se ruaient puis là les gars ils ont été obligés de quitter parce que ça commençait justement à se battre puis
Est-ce que tu en as vu des armes blanches
Des armes blanches.
Oui.
Oui, donc c'est sûr que les gens en avaient. Si c'était pas pour voler les épiceries, c'était pour se protéger eux-mêmes du vol.
Ouais.
Oui.
Ça devait être quand même quelque chose parce que là, tu sais, t'as les gens qui se protègent, oui. Il y en a qui ont des armes. D'un autre côté, t'as une partie de la population qui est dévastée parce que là, c'est des familles dissimées, c'est des bâtiments au sol.
Tout ce que t'as construit est tombé, là, dans le fond. Hein.
Et là, tu te retrouves au milieu de tout ça. Comme tu dis, tu es un peu dans un état d'esprit, j'imagine, un peu pas un nuage dans le sens où c'était plaisant, mais tu étais entre deux zones. Hein,
en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Tu dois être déconnecté, carrément.
La réalité fait plus de sens. Et là, vous étiez sur un projet, vous venez de vous marier, vous continuez, là, j'imagine, un peu vos démarches aussi, là, parce que c'est le but, c'est de se marier. Vous êtes aujourd'hui ici avec nous. Ça fait partie d'un processus, là, j'imagine. Est-ce que ça a changé vos plans ou vous continuez votre plan initial là, par rapport à ce que vous aviez prévu?
Bon, ça a changé nos plans, c'est sûr et certain, parce qu'au départ, je devais revenir seule. Après le mariage, on n'avait toujours pas les papiers. Avec l'immigration, c'est quand même assez compliqué pour faire venir quelqu'un d'Haïti. Avec l'événement qui s'est passé, on a eu la vie un peu plus facile. Après quelques temps, finalement, on a finalement pu rencontrer un agent d'immigration. Et puis, c'est ça qui a changé notre vie, en fait, que lui puisse revenir avec moi à ce moment-là.
OK.
Mais outre ça, il n'y a pas... Oh, c'est sûr que, bon, les changements de la vie, supposons qu'après l'événement, ce n'était pas nécessairement ce qu'on avait prévu. La vie était très différente. Nous, on avait l'intention de voyager, de faire un peu le tour du pays. J'ai vu quelques coins en Haïti, mais je voulais en voir beaucoup plus que ça. Je voulais faire le tour du pays si c'était possible. Bon, avec ce qui s'est passé, c'est sûr que mes plans ont été changés de force. Mais le gros, finalement, du changement, c'est vraiment le fait qu'il soit revenu avec moi.
Puis aujourd'hui, c'est l'après-séisme. Comment vous vivez les jours qui se passent? Parce que incessamment, vous avez encore des... vous allez avoir des contacts. Vous allez peut-être retourner, j'imagine. Peut-être d'ici la fin de l'année, avez-vous prévu retourner?
Bon, c'est sûr qu'on va retourner quand ben ça reste à déterminer. Moi, j'aimerais bien retourner aux alentours du mois de septembre ou au moins pour Noël en décembre. L'idée, c'est que ben on a encore de la famille là-bas, donc on va aller les rencontrer aussi. Mais c'est aussi peut-être d'aller aider un peu, d'aller supporter un peu les gens là-bas. Peut-être pas pendant des mois, mais au moins quelques semaines.
Ce que tu peux, tu sais.
Oui, tout ce que je peux faire.
OK. Puis est-ce que tu t'appréhendes des problèmes pour y retourner? Comment ça se travaille au niveau des ambassades actuellement? Est-ce qu'ils laissent les Canadiens?
En fait, depuis le 16 février, les vols commerciaux sont supposés avoir repris. Donc, théoriquement, il n'y a plus de problème pour se rendre en Haïti ou pour en sortir. contrairement à ce qu'on a vécu, nous, quand on est revenu. Là, on mm-hmm. ne pouvait pas partir.
Oui, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait... Bon, il y avait un peu de cohue dans l'aéroport là-bas. C'était très difficile. Tout à l'heure, tu nous racontais combien de temps qu'a pris ton voyage. C'était...
Habituellement, c'est 4h30 de vol. Ouais, c'est ça. Mais là, ça a pris en tout et partout 36 heures pour revenir.
36 heures?
Oui, ouais. Donc on est arrivé à l'ambassade le matin à 7 heures. On est arrivé à l'aéroport seulement à midi. On a dû attendre après l'autobus. Il y avait un militaire qui était avec nous pour nous protéger, un militaire armé, un militaire canadien, un gars de Valcartier d'ailleurs. Et puis, après ça, ben c'est ça, c'était d'attendre l'avion. On a pris l'avion seulement à 6 heures.
C'est-tu un avion de l'armée? C'est-tu un avion de transat? C'est un avion, c'est...
Ça devait être un avion de l'armée. Sauf que, finalement, ils nous ont envoyé un avion Air Transat.
Okay. Okay.
Nous, on pensait descendre à Montréal, mais je présume que, politiquement parlant, ça a fait changer les choses puisqu'on en est débarqué à Ottawa. Donc, en arrivant à Ottawa, on a dû attendre un temps là. À 1h30, on nous a fait prendre un autobus Orléans Express pour nous amener à Montréal. Donc, on a dormi à l'hôtel Wyndham à Montréal. Parce que en arrivant à Montréal, on a su que bon, il y avait plus de transit. Bon, il faut dire qu'on est parti d'Ottawa à 1h30. Donc, on est arrivé vers 3h30, 4h moins quart à Montréal.
Ouais.
Le temps de rencontrer les gens de la Croix-Rouge là. Ça a pris, bon, on s'est couché environ vers 5 heures. On nous a payé l'hôtel de la Croix-Rouge. On a fait un excellent travail, par contre. Je tiens à les féliciter, là. C'est comme le moment de le faire. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ils nous ont logés. Le lendemain, ils nous ont fourni l'autobus, finalement, pour revenir ici à Québec. Et puis, si j'avais eu besoin d'un taxi pour retourner chez moi, on me payait aussi le taxi pour le retour. Mais ça a quand même totalisé 36 heures là, pour le retour. On est arrivé, on était épuisés, contents d'arriver. Et puis, oui, ça a été long.
Mais avec le recul, bon, j'imagine que tu avais beaucoup d'attentes aussi par rapport à ton retour. J'imagine qu'il y a des gens ici qui t'attendaient impatiemment.
Oui.
Oui.
Qui ont eu peur. Comment ça, on dit oui?
Et j'attendais, moi, là.
Oui.
Et il n'y a pas juste sa famille, là, qui attendait. Moi aussi, j'attendais.
Mais j'imagine que tu étais très attendue. Ta famille
oui.
A dû être très heureuse de...
Vraiment. Et puis, je suis arrivée le jour de l'anniversaire de mon père, en plus.
Ah, oui. Okay.
Oui, ça a été quelque chose. C'est, ouais, c'est
beau cadeau pour lui, ça.
Un retour mémorable.
Et là, en plus de voir ton amoureux...
Oui, puis il n'était pas au courant. On lui avait caché l'arrivée de Sombrie avec nous aussi. Donc, le jour de sa fête, il a retrouvé sa fille. Il a appris qu'il n'était pas revenu seul. Et puis, oui, ça a été quelque chose. Ça a été émouvant.
Émotivement, ça, oui. Oui, ça,
oui, ça a été très émouvant, oui.
Puis toi, Sombrie, est-ce que tu étais venu quand même quelques fois avant au Canada,
non,
au Québec?
Non, pas du tout. Tout à l'heure, on a posé la question.
OK, là, j'étais pas là. Ouais,
c'est... Non, c'est la première fois.
OK, ouais. C'était vraiment... Ah, OK.
Ouais, il découvre le froid et tous les
étangs. La neige, oui.
C'est pas une grosse hiver de neige, je t'avais raison.
Bon, heureusement.
Et les rues barrées.
On va se reprendre son bruit, tu vas voir. On est capable au Québec.
Pour lui, ce matin, les routes étaient barrées. Il peut pas sortir. Ça devait être par la neige du jamais vu.
C'est vrai, effectivement.
Mais c'est un choc. Et pour son bruit, je veux pas l'hiver. On s'entend à Haïti ici. Là, c'est pas ouais. Même game. Là.
C'est comme le jour pour la nuit.
Mais le vrai choc a été en arrivant à Ottawa. Parce que moi, je pensais qu'on débarquait à Montréal. Donc à Montréal, on sait qu'en débarquant de l'avion, on se promène dans les petits tunnels pour arriver finalement au bagage et tout ça. Donc moi, j'avais dit à Sombrie, pas besoin de mettre ton manteau, on va mettre ça dans la valise, puis on va mettre ça seulement quand on va arriver à Montréal. Même moi, j'étais en gougoune, j'avais laissé mes bottes dans la valise, et puis on arrive à Ottawa, et puis moi, bon, j'étais jamais débarqué à l'aéroport d'Ottawa, donc je savais pas comment ça se passait. Et puis j'ai vu que oui, c'était sur la piste, donc lui était en manche courte, moi j'étais en gougoune, et puis il fallait faire à peu près, bon, je sais pas combien de mètres.
Ils vous ont
de
sorti
mètres.
Dehors?
Oui. Okay. Bon, ils nous fournissaient des couvertures chaudes, Dieu merci, mais ça a été quelque chose. Et puis Sombrie avait la couverture sur lui, et puis il disait non, pas besoin. J'ai dit, mets ça sur ta tête. Non, pas besoin. Oui, tu mets ça sur ta tête. Je vais mettre ça sur ta tête. Puis quand il est sorti dehors, ben c'était
il
de le
l'a
voir.
Mis sur sa tête.
Il était content de l'avoir sur la tête, la couverture.
Puis comment tu trouves ça maintenant? Tu t'adaptes-tu tranquillement plus au climat un peu et tout ça? Ou...
Oui, assez bien.
Ouais. Okay.
Excuse-moi, je t'imagine arriver à Ottawa, débarquer, puis te dire, mais c'est quoi ce maudit pays de Mongolie-là? Ils nous font marcher tout nu dans la neige.
Ouais, mais en même temps, c'est une pratique parce qu'on sait qu'au mois de juillet, c'est pas toujours chaud non plus. Hein?
Non. C'est un peu moins froid quand même.
Mais c'est sûr que j'imagine que t'es ressorti, comme disait l'auditeur tantôt, grandi de cette expérience-là. J'imagine que ça transforme quelqu'un, ça c'est évident.
Qu'est-ce qu'on en tire justement comme conclusion? Hein? Qu'est-ce que tu... Le côté humain de tout ça qui ressort, le but de surlever, l'envie de d'aller plus loin, puis ça, je veux dire, tu dois avoir une image qui te vient en tête ou tu dois avoir quelque chose qui te rappelle intérieurement un feeling ou je sais pas...
Ben, je dirais que après les événements, on fait une mise au point finalement sur soi et puis sur sa vie. Je me suis rendu compte que le luxe d'ici, c'est peut-être pas grand-chose comparativement aux relations que les gens là-bas créent. En Haïti, tout ce qui est matériel, pour la majorité des gens, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, la majorité des gens n'a pas les moyens de s'acheter du matériel. Donc, les relations qu'ils créent, c'est quelque chose de très profond. Et puis, c'est tous des frères et des sœurs qui sont liés. Ils sont carrément liés de ça, en fait. Et puis, de voir les gens s'entraider comme ça, je dirais que c'est vraiment ce qui m'a marqué, ce qui m'a touché. Et puis, si je devais repartir en Haïti et qu'on me disait, dans 3 jours, il y aura un autre séisme aussi fort que celui que tu as vécu, je dirais que je repartirais, sachant très bien ce qui se passera. Parce que je sais très bien ce que ça a changé en moi, puis ce vers où ça m'a mené. Et puis, je suis pas la même fille qui est là présentement que celle qui est partie. Ça, je le sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Le positivisme, en fait. On est souvent habitué à se plaindre ici, se plaindre de la couleur des murs de notre chambre.
On devient superficiel, je pense.
Vraiment.
On perd l'espèce de réalité qu'on devrait pas perdre, mais que tu étais confronté à la réalité. C'est quoi d'être humain dans un sens? C'est l'entraide, c'est tout ça. Puis au Québec, on dirait que c'est pour nous autres, ben au Québec ou partout, dans
mais
chaque pays, c'est pas ça.
Es-tu en train de dire que ça nous prendrait peut-être une catastrophe
naturelle
pour
ça
se resserrer les coudes?
Non, mais peut-être qu'il dit qu'on est trop préoccupé par les propos de Pauline Marois, mettons.
C'est que je crois qu'on a des banalités de la vie qu'on se soucie
comme à savoir si Annie Villeneuve va faire sa chanson
Ou si
à
sa sœur va vendre les Tupperware, là.
Ouais.
Mais c'est complètement... Non, mais c'est vrai, on vient... Tu sais, dans un sens, je pense que ceux qui sont déconnectés de tout ça, c'est nous autres, finalement, parce que on perd tranquillement les vraies valeurs de la vie.
Vraiment.
Puis quand tu vois des choses comme ce qui vous est arrivé, puis vous autres, c'était un moment heureux, vous alliez vous marier, vous avez vécu la catastrophe, tout ça, moi, je trouve que l'humain, malheureusement, on perd le côté petit à petit sans s'en rendre compte qu'on ne devrait pas
tu
perdre.
Tu sais, Duff, actuellement, tu...
Je suis l'émotif du show, hein, c'est moi qui l'émotif.
Non, mais ce que je veux dire, tu sais, bon, puis Tess Demi a subi, un processus avec son père là, qui est en attente d'une opération, toi avec ton père aussi. On dirait que les choses, je veux pas dire catastrophiques ou dramatiques, sont les choses qui nous portent justement à faire ces réflexions-là, mais il y a un lien à faire. Hein, que c'est quand on touche le fond, quand on est confronté à un obstacle, là, on se ressaisit.
Mais à la base, Smart, là, c'est-tu pas plutôt que toute l'espèce de côté matérialiste... C'est pas de la poudre aux yeux. Moi, je vois ça comme étant de la poudre aux yeux. Le temps que tu t'occupes de ton char à le chaîner dans le cours quand il fait 32, là, ben, t'oublies qu'à un moment donné, que t'as des valeurs qui sont plus profondes que ça.
Ça engourdit les vrais sentiments.
Je pense que oui, t'as raison.
Mais je pense que c'est un équilibre, Duff.
Ben, ça prend un équilibre, mais honnêtement, je crois qu'on se désensibilise de bien des choses, malheureusement, de parce que la société nous donne ce qu'elle nous essaye de nous rendre, la belle image, la belle maison, la belle famille, la belle ci, la belle ça. Mais il y a des valeurs, je pense, qui sont intègre à chaque individu. Puis malheureusement, on les oublie parce qu'on vit dans un monde où, tu sais, ici, là, tout peut être facilement du luxe, là, dans un sens. Là. Quelqu'un qui a le moindrement d'argent peut s'acheter un fichu de beau char, partir en voyage, whatever. Mais tu sais, quand tu es confronté à ce qu'ils ont vécu, là, tu dis, c'est quoi, Christy, la vraie valeur de la vie?
Sans
là?
Donner trop de détails, je veux dire, Sombri, là-bas, et sa famille, c'est une famille que tu classifies... C'est une famille de la classe moyenne, là-bas? Vous vous situez où, à peu près, dans la hiérarchie, là? Là-bas, êtes-vous dans les familles? Vous n'êtes pas des héritiers?
Non, c'est pas des rois.
C'est pas des rois?
Ben, en fait, il faut dire que... Ben, je vais te laisser avec cette question-là.
Bon, j'allais dire qu'en Haïti, on dit souvent qu'il n'existe pas de classe moyenne. Mais on n'est pas pauvre non plus.
OK. Ouais. Donc, vous étiez des gens qui... bon, j'imagine là-bas... Toi, tu avais un travail là-bas ou...
Oui, j'avais un travail... Bon, c'est comme si c'est moi seul qui avait un travail. On était 6 à la maison.
Et c'est qui travaillais pour nourrir les 6, autrement dit?
Bon, mon père travaille aussi, mais à cause de son salaire, je préfère dire qu'il ne travaille pas.
OK.
C'est toi qui amenais, dans le fond, l'espèce
donc,
de côté...
Oui, c'était moi le père de la maison.
Mais le fait que tu sois parti de là-bas, eux, la vie continue à ce moment-là. Est-ce que... Comment... Je veux pas être indiscret, puis je veux pas là, brasser certaines choses.
Non, mais c'est ça. Heureusement que j'avais un peu de quoi leur laisser.
OK.
Bon, ils pourront m'attendre un peu.
OK, je comprends.
Ah, ben c'est bien.
Ouais.
Puis là, encore là, on veut parler dans les détails, mais Vous êtes ensemble, c'est parce que vous avez.
Vous vous êtes rencontrés comment? C'est la question qu'on se pose.
Des expériences.
Sans être indiscret, on s'entend.
Comment une Québécoise se retrouve mariée avec un Haïtien?
C'est un voyage, c'est ça?
Ça, ouais, on appelle ça les magies du web.
Ah oui, sur le web. Oui, oui.
On s'est rencontrés.
Un parlais, internet.
Je parlais, écoute, juste une parenthèse, Annick. Parce que moi ici, j'ai le courrier du cœur à Radio Choc. Okay? Je parlais justement la dernière fois, on parlait un petit peu des sites internet de rencontres et tout ça. Et nice.
Oui, moi, c'est arrivé il y a 6 ans quand même. Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Ça a été plutôt difficile. Mais voilà, maintenant, je suis allée en Haïti une fois. Et puis bon, là, ça s'est comme confirmé quand j'y suis allée. Donc moi, la petite Québécoise qui n'a jamais pris l'avion de sa vie, qui part pour Haïti, un pays connu comme étant instable... je prends l'avion, mon baptême de l'air, je vais dans un pays instable, rencontrer un gars que je connais sur Internet depuis déjà très longtemps, mais avec qui j'ai jamais vraiment eu de contact réel, excepté par téléphone. Bon, c'est sûr qu'on se parlait tous les jours, webcam, téléphone, tout ça.
Mais ça a commencé par Internet.
Ouais. Ça a commencé par
du
Internet.
Chat, autrement dit.
Oui, du chat.
Ça,
mais un site de rencontre ou des intérêts communs?
Non,
c'était pas un site de rencontre. C'était...
Non, c'était toi qui m'avais écrit le premier, chérie.
En fait, j'étais attirée par Haïti. J'aime Haïti depuis déjà longtemps, sans même le connaître. Je l'aimais déjà. Et puis, bon, ça a été un peu le point de départ, finalement, de notre conversation.
Fait que t'étais un objet.
Il est exploité.
Bon, il n'y a pas trop de l'air malheureux de
non,
ça.
Non,
il y a de l'air heureux de ça, je trouve. Ouais.
Fait qu'elle prend l'avion, puis elle sauve comme ça, puis il y a son grand frère, hein, son ami de l'autre bord, qui dit, ben là, t'es mieux de m'écrire en tabarnouche en arrivant, parce que moi, je te check.
Faut dire que mon grand frère est en Daniel. Là.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Étant un bon ami depuis déjà de longue date, et lui, bon, c'est sûr qu'au départ, il était vraiment, vraiment, vraiment apeuré par l'idée aussi. Et donc, j'avais la tâche de d'écrire assez fréquemment à mon grand frère, finalement, pour lui donner toute l'information nécessaire.
Donc, il y a toujours un chaperon à quelque part.
Hein? Toujours, même si c'est loin, même si c'est à plusieurs. C'est
ça veut donc dire que, sans dire que tu es téméraire, c'était quelqu'un qui
a du guts,
tu sais, qui ose dans la vie.
En fait, t'as écouté ton feeling.
Oui. Mais c'est-tu pas là qu'on se rend compte que l'amour, c'est fort et c'est beau?
L'amour, c'est fort et c'est beau.
Non, mais c'est vrai, puis ceux qui en doutent, là, l'amour n'a pas de limite, les amis.
On arrive dans un corps d'adulte.
il est célibataire, ça fait 3 ans, mais un jour, ça va peut-être bien y arriver. Faudrait peut-être que j'écrive à Haïti.
Ben là, Dom.
T'as pas une sœur, son vrai?
Oui, il y a une sœur. On peut t'amener au prochain voyage, ça peut peut-être s'organiser, oui.
Dom, tu te sens pas appelé à quelque part, je sais pas.
Ben, j'ai un petit coup de port au prince.
Hein? Surtout que t'es un grand voyageur parce que
ouais, bon, il aime
voyager.
C'est vrai,
en plus.
Bon, on part en décembre, hein, si jamais tu veux faire partie des bagages, tu peux.
Je me déplacerai soi.
Sur ça, on va faire une petite pause. On va revenir de l'autre côté de la pause après avoir eu ces discussions-là. On va continuer un peu à profiter de la présence.
On va remplir le vin un petit peu pour toutes nos personnes ici. Là.
Donc, soyez des nôtres. On se retrouve dans environ 4-5 minutes.
Yes, sir.
C'est la gang de Radio Choc qui vous dit à tantôt.
Radio Choc and Friends.
C'est quoi donc l'affaire?
Ben, c'est des animateurs qui parlent avec des amis. Ben, deux gars qui parlent avec des chums. Bon, ben là, si tu saisis pas, écoute donc le show. Ça va être bien plus simple.
Radio Choc and Friends.
Pour une maison de qualité, faites affaire avec Construction McKinley. Que ce soit pour une maison standard ou de prestige, venez rencontrer notre équipe jeune et dynamique. Gagnante de plusieurs prix Nobilis, nos maisons sont toutes couvertes par la garantie de la PCHQ et nous sommes certifiés Novo Climat Sélec. Plan sur mesure, projet clé en main ou à travaux partagés, nous sommes là pour vous supporter. Informez-vous auprès de nos représentants, nous avons plusieurs développements dans le Québec métro. Consultez notre site internet au www.constructionmckinley.com ou composez le 418-844-3334 pour plus d'informations.
Radio Choc and Friends.
De retour après la pause dans 3, 4, 5 minutes.
Qu'est-ce que t'as dit?
Ben, le temps que les animateurs aillent à la toilette, se lavent les mains et prennent une petite gorgée. Ben quoi, comme toi, ils ont bien le droit de se reposer un peu.
Radio Choc and Friends.
If heaven is a place where the angels go, well then I got a story to tell. If heaven is a place where the angels go, then I guess you're going straight to hell. Don't wanna leave you now, never, 'cause
Bienvenue à bord, mon grand.
Boucle ta ceinture. Tu te prépares à traverser une zone de turbulence. Avec toute la gang de Radio Choc.
Et on est de retour. C'est le fun parce qu'on jasait ça durant la pause.
Des gens intéressants qu'on ait sur studio, les amis, sérieusement. Ben oui. Très intéressant.
Test Dummy nous apporte toujours des valeurs sûres.
Tout le temps. C'est correct, ça.
Non, mais c'est vrai.
Oui, puis c'est du vécu que, honnêtement, on n'aura pas la... Oui. Je fais toujours attention quand on dit ça parce que vous avez vécu des choses très profondes, très très humaines aussi. Mais je veux dire, c'est pas tous les jours que tu as la chance de côtoyer des gens qui ont vécu des catastrophes comme vous avez vécu parce que l'espèce d'apport humain, de oui. sensation, on se découvre une deuxième nature que peut-être je pense qu'on pensait même pas avoir quand ça arrive, ces choses-là. Là.
Effectivement.
Tu sais, on se trouve beaucoup plus fort, j'imagine, de gars, ce que vous avez fait. Tu sais, je veux dire, c'est... Tu viens fort dans le dans un claquement de doigts de main.
Toi, depuis que tu es revenu, Annick, est-ce que tu as repris le travail? Est-ce que tu as repris tes activités ici au Québec?
J'ai repris le travail excessivement vite. Donc, 5 jours, même pas après être revenu, je recommençais mes activités. Je me suis même d'ailleurs fait dire par plein de monde que je devrais peut-être prendre plus mon temps parce que le choc post-traumatique peut arriver jusqu'à un an après l'événement. Et puis, on me dit, bon, tu devrais peut-être plus te reposer, tout ça. Mais j'ai tellement peur, même malgré que je sois ici, que je pense que ça me fait du bien de travailler, ça me fait un peu oublier tout ça. Bon, c'est sûr que pour Sombrie, c'est pas l'idéal aussi parce qu'il est tout seul à la maison. Moi, je travaille, lui peut pas travailler compte tenu de son statut. Donc, il doit passer les moments tout
donc
seul.
Là, ce qu'on comprend, c'est que Sombrie a un statut temporaire pour l'instant au Canada.
Il a un
Canada.
Statut visiteur. Donc, son visa est visiteur pour le moment jusqu'en juillet. On doit se dépêcher pour faire ses papiers d'immigration.
OK. Donc, ça, il y a un processus. Et le fait d'être marié, est-ce que ça... C'est le même processus ou ça change rien?
Le fait d'être marié peut changer le processus, peut l'accélérer à condition d'avoir le certificat de mariage. Donc, avec l'événement, ce qui s'est produit, c'est qu'après le mariage, le pasteur qui nous a mariés devait contacter un officier d'état civil pour authentifier le mariage, question que ce soit légal. Par contre, avec le séisme, on était longtemps sans savoir si l'officier d'état civil qui devait s'occuper de notre dossier était toujours vivant ou s'il était mort pendant le séisme.
Ah, ouais. Hey, en plus,
on a su récemment qu'il était toujours vivant, donc on devrait théoriquement recevoir les papiers sous peu. Sauf que tout le processus en Haïti est maintenant très lent parce que tous les ministères sont tombés. Donc c'est long de relocaliser tout ce monde-là et puis de rendre fonctionnel tout ça. Donc, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Mais ce que je sais, c'est que plus ça sera long, plus le risque que Sombrie doive retourner au pays est grand, finalement.
Pour faire plaisir au côté émotionnel à Doff...
Ça, j'aime ça.
Quand on parle d'un mariage, de quelle façon on se marie là-bas? Ça ressemble-tu un peu à nos traditions?
C'est
ou...
identique à ici. Haïti, c'est un pays où la religion catholique est la première religion, protestante étant la deuxième, sensiblement comme ici. Donc, les traditions sont les mêmes, à l'exception que le party dure moins longtemps, finalement.
Oui, j'aurais cru l'inverse. Ouais, non, je pensais que c'était plus
non,
de
party, en fait,
là.
Si on, comme nous, on avait loué une salle bien précise, donc à 10h30, les gens commencent déjà à s'en aller, ce qui fait que, la nuit de noces commence plus tôt, ce qui est pas mal en soi, non?
Ce qui est pas.
D'ailleurs, on voit Sombrie qui est mort de rire. Il y a un sourire blé, hein? On peut le comprendre.
Il dit, c'était le temps que le monde s'en aille.
Et je pense qu'il s'est organisé avec eux autres qu'à 10h15, ça l'hiver.
Ouais, c'est ça l'affaire.
Un petit 5$ par là. Toi, maintenant, 9h30.
Tu vois que le budget du mariage avait baissé vite aussi. Je me demandais pourquoi.
Ouais, mais il est pas fou, il est rare, il a ça.
Puis là, vous êtes rencontrés sur Internet, vous vous mariez là-bas.
C'est quoi le délai, par exemple, entre la rencontre Internet et le mariage?
Quoi, tu l'as dit tout à l'heure, 6 ans?
6 ans, ok, parfait.
N'écoute pas, Doc.
J'écoute, mais j'ai rien à me chercher.
Il est perdu dans ses émotions.
Ouais, c'est ça. Mais.
Ce qu'on sait pas, c'est qu'il verse une larme à l'occasion.
Peut-être deux, des fois.
Vous projetez, parce que là, vous êtes ici, c'est quoi? Je veux pas rentrer dans les détails, là, mais à long terme, vous voyez plus au Canada ou à Haïti? De quelle façon vous regardez ça?
Comment vous voyez la vie, ouais, c'est ça?
Moi, j'adore Haïti. Mon but, c'est d'y retourner, Sombrie aussi. L'idée, c'est de aussi repartir avec le pays. Donc, le pays est présentement en grand besoin. Nous, ce qu'on voudrait, c'est participer finalement à sa reconstruction.
Est-ce que tu vivrais à Haïti?
Je vivrais en Haïti. C'est un pays exceptionnel. C'est vraiment, les gens sont proches, les gens sont chaleureux. C'est un très beau pays. Mais pour partir quelque chose là-bas, ça prend l'argent. Donc, le but, ouais, c'est d'essayer d'économiser ici pour éventuellement, okay, repartir. On a des idées de projet d'ailleurs.
Et dans ton domaine, tu voudrais continuer dans ton domaine une,
oui,
fois là-bas?
Oui, oui, effectivement. Donc, nos idées s'en vont dans ce sens-là. Sombri a des amis, un ami entre autres qui est médecin là-bas en Haïti. Donc, mon idée, ce serait de repartir en Haïti dans à peu près 5 ans, peut-être ouvrir une clinique qui deviendra éventuellement un centre hospitalier là-bas, avec les technologies, peut-être même voire même créer un lien entre Canada et Haïti pour prendre des stagiaires d'ici, là-bas.
Ah, ben c'est bien ça.
Oui, pour faire des projets à l'étranger pour les gens qui étudient présentement ici en soins.
Et est-ce que tu as l'impression vraiment que c'est une opportunité? Wow. Je ne veux pas dire en or, mais... Le fait que
le timing est-tu bon, hein? C'est ça, le timing est bon.
Il y a une restructuration comme ça et qu'on met des choses en place. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que les gens semblent le dire là, il faut doter aussi l'Haïti d'un paquet d'infrastructures. Donc profitons. C'est plate à dire là, de profiter d'une catastrophe comme ça, mais de l'opportunité.
Mais c'est une opportunité, pas de la, non, c'est ça.
C'est de tourner, c'est de faire quelque chose de bien.
C'est ça.
Exactement. Donc c'est pas de profiter de la situation d'Haïti actuellement, mais c'est de d'aider ce peuple-là finalement à se reconstruire. Et les Haïtiens là-bas le disent eux-mêmes que c'est un peu l'occasion pour eux de repartir le pays. Haïti, c'est un pays qui est exceptionnel. Les gens sont chaleureux, comme je disais tout à l'heure, c'est un pays à vivre. Mais Haïti avait beaucoup de problèmes aussi de par sa structuration, de par aussi son manque d'aide finalement. Il n'y a pas de compagnie de récupération là-bas qui pourrait faire le nettoyage des rues et puis essayer de réutiliser ce qu'il y a déjà, ce qui fait que le pays, avec le temps, vu aussi la population immense qu'il y a dans le pays, il manque de place pour tout le monde. Donc, c'est devenu un pays où il y avait beaucoup de pollution finalement, en tout cas au centre-ville. Donc, de faire le ménage de tout ça pourrait peut-être permettre à Haïti de repartir sur une base solide, s'ils ont l'aide nécessaire, évidemment.
Parce que la densité là-bas de la population est assez élevée par rapport à la dimension.
Combien de millions, hein, c'est ça?
Vraiment. C'est pas 9 millions environ.
C'est 9 millions, oui, mais c'est
pour un endroit qui est plus petit même que la province de Québec.
Oui, c'est du stock.
C'est un pays beaucoup plus petit que la province de Québec, donc ça fait excessivement de monde pour un espace très restreint. Ce qui fait, et puis il n'y a pas non plus de structure de nettoyage des rues comme ici. Il n'y a pas de poubelles dans les rues. Il n'y a personne qui pense ramasser tout ça. Donc, les Haïtiens font ce qu'ils peuvent, mais s'il n'y a pas de moyens pour eux de garder leur ville propre, ben à ce moment-là, on peut bien vouloir, mais
puis
si
à
on
9
pas
millions,
le pouvoir,
veux pas, c'est pas long que tu peux perdre le contrôle.
Le contrôle,
aussi, là.
Exactement.
Mais tu sais, comme toi, Sombri, là, tu es au Québec depuis quand même quelques temps, à ce moment-là, je veux dire, est-ce que tu te sens à l'aise au Québec malgré tout? Oui, tu as la femme que tu aimes, ça, c'est une chose, mais. En tant que
c'est la meilleure chose. En fait.
Ouais, mais ça, c'est écoute, on peut le comprendre. Là. Mais je veux dire, tu comprends-tu ma question? C'est que comment tu te sens dans ton nouvel environnement qui, on ne sait pas, pourrait être temporaire ou peut être permanent ou dépendant de vos projets qui s'en viennent, mais bon. Tu te sens comment là-dedans? T'es...
C'est bien.
Oui?
C'est bien. Je n'ai pas à me plaindre.
Tu t'attendais-tu à ce que ce soit comme ça ou?
Non, pas vraiment.
Tu t'attendais à quoi, tu?
Pas vraiment, bon. Étant donné aussi que c'est la première fois pour moi dans un pays étranger.
OK.
Donc, toi, tu n'étais jamais sorti d'Haïti en plus?
Bon, sauf à Saint-Domingue, qui est tout près.
Santo Domingo, en République dominicaine, oui, effectivement. Ouais, qui est la capitale, près. D'ailleurs, de la République dominicaine, c'est ça.
Ah, ben, c'est beaucoup de choses en même temps. Ouais. C'est beaucoup de choses en même temps. Puis... Je pense que on a une communauté haïtienne, surtout dans la région de Montréal. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà ici reconstitué ça, non, pas vraiment.
Avec le froid qu'il fait, je dirais que l'idée, c'est de le garder au chaud. J'ai pas envie qu'il tombe malade pour le moment.
Puis il n'y a pas une grosse hiver, là. Il part tranquille.
Fait que tout le monde chez toi, quand tu reçois du monde, ça quitte vers 10h15.
Des fois avant.
Question de renouer les vœux.
Ben écoute, avec un voyage de noces écourté, on n'a pas le choix d'essayer de rattraper quelque part. Hein.
Dof, un peu gêne.
Non, voyons.
Là, c'est ça. La première heure, il est correct, mais là, il va dans le mordant. Il est comme ça, Dof. Il veut savoir les petits détails.
Il a l'air heureux, son bris. Moi, je trouve qu'il a de l'air heureux, moi, te le dire, moi.
Oui, je le suis.
Ben oui, je pense que oui. Moi, je trouve ça beau de vous voir. Sérieusement, je trouve ça beau, moi.
Lâche pas mon Dof, une petite gorgée de vin.
Ouais, pas pire en plus. Non, mais c'est une belle histoire pareille, sérieusement.
Là. Oui. Et tu nous parlais tantôt, tu travailles dans le domaine de la santé. Tu as réintégré ici au Québec là, ton travail. Est-ce que tu as l'impression, parce que là-bas, il y a un système en place de santé, c'est sûr que là, tu l'as-tu utilisé? L'as-tu déjà eu à te présenter dans les hôpitaux là-bas? Non,
jamais, mais on a quand même Bon, il y a la femme d'un de ses amis qui était hospitalisée pendant un de mes voyages en octobre dernier. Donc, j'ai eu la chance de voir un peu comment ça se passait, mais non, j'ai jamais eu à utiliser les services hospitaliers.
Fait que t'es pas en mesure nécessairement de faire des comparables à l'heure actuelle, j'imagine.
Non, vraiment pas.
Puis, bon, au Québec, on sait que c'est un sujet de longue haleine. On en parle, regarde, c'est des lunes et des lunes. Est-ce que t'as l'impression que, à travers tout ça, parce que là, t'as vécu cette expérience-là, t'as développé, bon, des capacités humaines, t'as peut-être une philosophie aussi qui est différente aujourd'hui. Comment tu te vois à l'intérieur de ce domaine-là au Québec, si on enlève le fait que tu es allé en Haïti puis que tu voudrais t'établir là-bas un peu plus tard? Est-ce que tu as l'impression qu'au Québec, on est pris peut-être avec des difficultés qui vont nous amener à frapper le mur, comme on dit, dans le domaine de la santé, avec ce que tu vois actuellement?
En fait, je pense qu'on se dirige directement dedans.
Assez vite, à part ça. Hein?
Assez rapidement, je dirais qu'on est présentement en TGV, là, présentement.
Puis il n'y a pas de chauffeur.
Il n'y a juste pas d'ABS sur le TGV.
Exactement. En fait, le système de la santé ici est très, très, très souffrant, peut-être même plus que les patients qu'on a à traiter, de par le fait, entre autres, que je pense que le système de santé, malheureusement, est beaucoup plus... se représente beaucoup plus en signe de dollars que qu'en représentation humaine et qu'en service, effectivement. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on commence à prendre les patients beaucoup plus pour des numéros que pour vraiment des patients.
Et là, toi, tu as réintégré ton travail. Est-ce que tu fais des horaires de fou? T'es-tu pris dans les cycles qu'on nous décrit, là, où les gens font du surtemps?
Des obligatoires, des heures supplémentaires obligatoires tout le temps, là?
En fait, je le serais, mais heureusement, j'ai la chance d'avoir quitté partiellement le centre hospitalier, en tout cas pour le moment, pour enseigner. J'ai cette chance-là de ne pas être actuellement en centre hospitalier. Mais effectivement, je sais que mes collègues font excessivement beaucoup d'heures, surtout le personnel de nuit en ce moment, font beaucoup d'heures supplémentaires.
Vas-y, Witness.
J'ai entendu dire, je sais pas dans quel hôpital, mais qu'il avait fait des 18 heures.
Oui, ça peut arriver à l'occasion, effectivement. Ouais. Bon, souvent, les 18 heures, c'est, en tout cas, de moi où je travaillais, c'est surtout s'il y avait tempête et que les gens pouvaient pas entrer. Habituellement, c'est un 16 heures et puis après ça, on... Et
16 heures, c'est quand même deux en une,
non? 16 heures, c'est comme deux en une, oui. C'est
assez je veux ça, pas mettre personne mal à l'aise, mais je pense que c'était dû à des protestations de d'autres infirmières qui n'ont pas rentré faire leur chiffre.
Ah, c'est possible.
Je me rappelle pas la raison sur laquelle ils protestaient. Mais les autres ont dû continuer à les baquer. Ouais.
Ça, c'était à Maisonneuve-Rosemont, à Montréal. Hein?
Ah, je sais pas.
Peut-être, oui. J'étais assez agressif, Witness. On dirait que tu veux péter ta coche. Là.
Mais non, du tout.
est-ce que tu sens qu'il y a de l'avenir? Parce que si tu dis que tu enseignes, donc tu es en contact direct, j'imagine, avec des gens qui... Bon, je sais pas si c'est dans des cours de perfectionnement ou tu enseignes aux futures générations. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est une profession qui on s'en va dans le mur, mais côté professionnel, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution quand même à travers tout ça ou que les choses rempirent et puis que vous êtes vraiment coincé? Parce que de dire que la structure est souffrante, c'est quelque chose, mais la profession derrière tout ça, j'imagine que ça c'est
la profession va survivre, mais je veux dire, le problème est présent. C'est comme...
La vocation, est-ce que tu as l'impression que la vocation, parce qu'on... On s'entend que dans le domaine de la santé, c'est une vocation quand tu t'en vas.
Oui, je le pense.
Est-ce que tu as l'impression que c'est encore là, ça, au sein des professionnels dans ce domaine?
Je pense oui, mais je pense qu'on est des gens ayant la vocation, mais étant épuisés aussi. Donc, moi, ce que je vois, c'est que lorsque j'enseigne, on laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup la place aux infirmières auxiliaires maintenant, de par le fait qu'il y a une grosse demande. C'est un cours qui est un petit peu moins long que le cours d'infirmière. Et puis, il y a une grosse demande pour les infirmières auxiliaires. Moi, j'enseigne aux infirmières auxiliaires. Et puis, je vois vraiment, on ajoute des groupes et puis on fournit pas, finalement, de former des gens à ce niveau-là.
J'ai cru comprendre que vous aviez, à l'hôpital, mettons, dans les différents hôpitaux, ils coupent sur le nombre d'infirmières pour remplacer par des infirmières auxiliaires qui ont moins de formation parce que ça coûte moins cher.
Bon, ça peut arriver dans certains hôpitaux, oui. Ouais, okay. Ça pourrait arriver.
Mais ça veut donc dire que... On enlève un certain niveau de responsabilité quand on fait ça, parce que là, une infirmière auxiliaire, j'imagine, ne peut pas faire autant d'actes.
Exact, c'est ça.
En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on, dans certains hôpitaux, on va tendre à faire un remaniement du personnel. Donc, avant, on avait, supposons, 14 infirmières dans la journée, qui avaient chacun, supposons, 6 patients, chacune. Maintenant, on va mettre moitié-moitié. Donc, sauf que deux personnes ensemble, une équipe finalement composée d'une infirmière et d'une infirmière auxiliaire, aura peut-être 8 patients à 2 plutôt que 6 à 1. Ce qui fait que l'infirmière auxiliaire sera beaucoup plus axée sur les soins directement liés aux patients, alors que l'infirmière sera beaucoup plus dans les dossiers, dans la paperasse, et puis, à essayer de faire en sorte que les examens soient faits dans les temps requis et tout ça.
Il y a quelques semaines, il parlait d'infirmières dans le secteur privé qui allaient travailler dans des hôpitaux aussi, qui étaient comme référées par une agence. C'est un petit peu, en tout cas, je ne sais pas si tu es au courant un peu de ça.
Bon, oui, il y a des agences qui engagent du personnel maintenant. C'est sûr que les hôpitaux, au départ, étaient un peu plus réfractaires à ça, compte tenu du fait que dans les centres hospitaliers, c'est souvent beaucoup perfectionné. Souvent, les agences agissaient beaucoup plus au niveau des CHSLD ou des résidences privées, des fois service à domicile, dépendamment si la personne hospitalisée devait quitter et puis qu'il y avait toujours des pansements à faire, tout ça. Mais maintenant, oui, c'est possible qu'on laisse plus place à ces infirmières-là au niveau des hôpitaux, c'est possible, oui.
C'est bien vu?
Bon, ça dépend de quel côté les gens se placent. C'est sûr que pour le centre hospitalier, c'est des frais qui sont supplémentaires parce que c'est plus cher une infirmière d'agence qu'une infirmière directement du centre hospitalier.
Mais à long terme, c'est sûr que je pense qu'il faut regarder aussi du point de vue du patient là-dedans parce que c'est le patient qui est au centre normalement des soins. Hein. Je pense que...
Je vais poser une question, par exemple, tantôt. Oui. On va te laisser finir ta phrase, mais sois bien à l'aise, OK? Mm-hmm. Tu travailles dans un domaine qui est hospitalier, tu as vu certaines choses et tout ça. On a déjà parlé sur le show de la clinique Dignitas en Suisse, qui est une clinique qui est pour l'euthanasie. Oui. OK? Dépendant de certaines choses que les gens vivent ou la famille vit ou quoi que ce soit, il y a des gens qui sont vraiment mal en point et que leur vie s'est rendue un calvaire. Puis pour les gens qui la vivent, ça devient un calvaire incroyable. Est-ce que selon toi, tu penses que l'euthanasie, dans un certain sens, aurait sa place au Québec? Parce que c'est un débat de société qui, malheureusement, on dirait que des fois, on a l'impression qu'on va empêcher une grenouille de souffrir, mais un humain, ça, c'est pas grave, on va le laisser souffrir. Pas les gens qui travaillent dans le domaine hospitalier nécessairement qui veulent ça, mais la société en fait ça.
Moi, je dirais que, bon, je détiens pas la vérité, sauf que pour moi...
Tu comprends ma question?
Oui, je comprends ta question. Sauf que pour moi, l'euthanasie, ce serait quelque chose d'impensable. Malgré que je comprends qu'il y a des gens qui souffrent, il y a toujours des moyens de soulager ces personnes-là. Et ma crainte à ce niveau-là, ce serait qu'il y ait des gens qui profitent, abusent. Oui, c'est ça, qui abusent un peu de la situation pour euthanasier quiconque veut mourir. D'après moi, il y aurait peut-être à un moment donné un problème à ce niveau-là. Donc,
Mais si je fais un parallèle avec l'expérience à Haïti que tu as vécue, j'imagine que là-bas, il y a des gens qui se sont trouvés avec des amputations ou dans des cas très, très, très critiques. Là-bas, j'imagine qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement la capacité de par le système, d'entretenir ces gens-là dans un état, de les soulager. Donc, il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui n'ont pas pu survivre à ça.
Des gens qui n'ont pas pu survivre à ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on va toujours prioriser les gens qui ont une chance de survie avant ceux qui sont
le triage.
Dans nos sociétés, on est tellement rendu des fois à se préoccuper, comme on dit, là, de moindres détails qu'on a tendance à maintenant travailler beaucoup là-dessus, là, sur l'espérance de vie. Étirer la vie des gens. Contrairement à d'autres pays où eux, ils se concentrent pas vraiment là-dessus. Puis
sélection naturelle un peu plus.
Sélection plus naturelle. Puis il y a des pays qui, comme nous, permettent l'euthanasie. Fait que je me dis, à quelque part, est-ce que on n'est pas en train justement de vouloir créer des systèmes de protection qui vont contre la nature? Haïti, tu l'as vu, la nature,
quand elle se déchaîne,
Elle ne choisit pas et
elle n'est pas toujours jolie. Là.
Sauf qu'en Haïti, dans la vie de tous les jours, là, on parle vraiment de lorsqu'il y a eu la catastrophe, des gens qui étaient gravement blessés, qui avaient zéro chance de survie à long terme, étaient pas priorisés par rapport à la personne qui avait une grande chance de survie.
C'est ça.
En temps normal, Sombri me corrigera si jamais je me trompe, mais les médecins là-bas ne laisseront jamais mourir quelqu'un qui aurait pu survivre.
Non, sans dire laisser mourir, mais ici, par les moyens techniques, des fois, on dirait qu'on peut mettre des fortunes sur un individu.
Oui, mais je m'excuse d'interrompre vite, mais je pense que c'est juste une question de croyance populaire. Non, aussi, ici, tantôt tu l'as dit, la croyance là-bas, elle est vraiment beaucoup plus forte. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça qui est derrière la motivation de garder l'humain en vie tant ou si longtemps que c'est possible de le faire. Tant que la décision n'a pas été prise, que c'est la fin.
C'est ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui va implorer la mort ou demander à mourir là-bas. Okay. Les gens s'en remettent 300% à Dieu. Et puis si Dieu lui-même n'a pas pris la décision de laisser partir quelqu'un, les gens vont rester en vie. Il n'y aura pas d'euthanasie là-bas. Il va y avoir un soulagement de la personne, oui, si la personne est très souffrante, mais jamais, 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 il y aura un processus d'euthanasie là-bas parce que la religion, c'est trop fort. Dieu est trop présent pour les Haïtiens.
Donc, ce que tu nous dis, parce que tu nous as parlé de la religion tout à l'heure, c'est vraiment, ça t'a frappé la différence avec nous, comment on peut vivre notre religion?
Avant même le séisme, quand on se promène dans les rues d'Haïti, on voit l'auto Dieu donné, l'auto Leslie.
Donc, c'est pas des clichés, ça, là.
Non, il y a des noms de Dieu partout. Les noms de rue, c'est des noms de Dieu. On voit des là-bas, ça s'appelle bon des tap-tap ou des camionnettes, c'est ce qui fait un peu référence au service routier ici, les autobus et tout ça. On voit la présence de Dieu, Dieu est amour.
Beaucoup d'églises, j'imagine.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises, autant protestantes que catholiques. Les autobus là-bas ont des numéros de psaumes, des cris, des numéros de.
Ah ouais, t'es sûr,
oui, non? On se promène et puis Dieu est présent partout, 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 autant dans les rues que sur les bâtiments, que sur les voitures. C'est quelque chose quand même assez c'est exceptionnel
donc,
de voir
mais,
ça.
Mais qu'est-ce que ça fait, Sombrie, toi qui arrives au Québec, que tu as vu cette réalité-là, qu'un peuple est très croyant, que tu arrives au Québec, qu'on est comme...
Cette civilisation de païens.
Ouais, non, mais tu sais, sans femmes. Dire païens, mais tu comprends ce que je veux dire, qu'on est un peu comme...
Oui, ici, on ferme les églises, effectivement.
Mais c'est quoi pour toi, là, parce que c'est un... T'as un choc de réalité, je veux dire, qui est complètement distinct, là, je veux dire, c'est deux choses différentes. Tu vois ça comment, toi, par exemple?
Bon, pour moi aussi.
Et toi, des petites questions.
Pour moi aussi, qui est chrétien.
Oui.
Qui suis chrétien. Donc, pour moi, chacun a sa vie.
OK.
Donc, je ne critique pas le fait que, par exemple, quelqu'un n'est pas chrétien ou je ne sais pas.
OK.
Donc,
c'est un genre de vivre et laisser vivre, finalement.
Oui, oui, oui.
Mais c'est sûr qu'ici, c'est différent parce que. Je lui parlais un petit peu de comment était le pays avant qu'il arrive pour éviter le choc culturel
parce
un peu trop grand.
Là-bas, j'imagine que tu pratiquais avec eux là-bas et j'imagine que ils doivent être pratiquants aussi au maximum. Là.
Oui, ils sont très pratiquants.
J'imagine qu'ils vont à l'église.
Les gens vont à l'église.
De façon régulière. Là.
Les gens ont leur Bible. Puis immédiatement après le séisme, même au-delà de ça, pendant les 3 semaines où j'y étais, les gens prient dans la rue, les gens, il y a des chants de louanges. Même que le 12, 13 et 14 février dernier, les gens se sont recueillis au Champ de Mars, finalement, directement au centre-ville de Port-au-Prince. En fait, le Champ de Mars, c'est un endroit qui ressemble un peu au Carré du Ville ici, mais en peut-être 40 fois plus grand. Donc,
ah oui.
C'est le même principe. Donc, les gens, ils ont plus
un
de
5 ans.
C'est
comme à Paris, finalement, le Champ de Mars. C'est un grand parc en dessous de la
Tour
Eiffel.
C'est
un grand espace.
C'est un grand parc, oui, effectivement.
Ça doit avoir un lien, d'offre.
Oui, je pense que oui.
Hein?
La France, Haïti,
ouais,
peut-être qu'il y a un lien.
Il y a un genre de petit quelque chose.
Mais,
là, tu sais.
Mais là, je veux dire, ça change les mœurs, ça assombrit quand même, là, le fait d'être ici.
Bon, du fait que je suis croyante aussi, ça l'aide peut-être. Parce que jusqu'à maintenant, il faut dire aussi que Sombrie est arrivée, ça fait à peu près même pas un mois. Et puis, on n'a pas eu le temps, de par le fait que je travaille beaucoup aussi, on n'a pas eu le temps de sortir vraiment de la maison, de voir beaucoup de choses. Donc, il n'a pas encore été... en fait, il n'a pas eu la chance vraiment d'entrer dans le mode de vie de Québec ou du Québec. C'est sûr qu'à l'été, je vais faire prendre un bain de foule.
Mais là, tu as-tu fait manger une poutine?
Il a mangé une poutine.
Ah, mais... ouais! Ah, alors, il est des nôtres, il a mangé une poutine comme les autres.
En fait, le lendemain, après son arrivée ici, j'ai dit, chérie, on devait... Bon, quand il est arrivé ici, monsieur avait des pantalons longs, mais que des t-shirts, donc j'avais pas le choix de lui acheter des vêtements chauds. Et puis, pendant le magasinage, j'ai dit, faut que tu goûtes à la poutine. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de l'amener chez Ashton.
Ouais.
Il a mangé sa première poutine régulière.
Puis comment, on aimerait avoir tes impressions.
Et le verdict.
Non, c'est bon.
C'est bon, ouais, c'est correct. Tu t'attendais-tu à ça ou?
T'attendais-tu à ça? Comment tu peux avoir des attentes avec, par rapport à une poutine, tu sais?
Y a-tu essayé le dulton, la galvaude?
Non, il a pris la poutine.
Straight, régulière.
Ouais.
Okay. Au péril de causer une
patate sauce
guerre,
fromage.
Là, au péril de causer une guerre.
Il n'y a pas eu d'indigestion, non?
Non.
Quand tu viens à Montréal, je t'amènerai à Banquise.
Ah, OK. Ouais. Mais la Banquise,
laisse faire Ashton, là.
Hey. Bon, Daniel.
C'est de la pratique, Ashton. Okay,
monsieur Montréal, s'il vous plaît.
Notre monsieur Montréal ici.
S'il vous plaît, ouais.
Notre monsieur Montréal ici dit ça, mais je tiens à mentionner que ouais. J'ai soupé avec lui ce soir.
Et qu'est-ce qu'il a mangé?
Une poutine Ashton.
Voilà.
Non,
mais tu sais, c'est pas parce que ma mère fait le meilleur pâté au saumon au monde que je vais pas manger du pâté au saumon ailleurs, right?
Bon, on dit souvent que la poutine fait pas le moine. C'est ça l'expression, hein?
Mais moine, ma poutine préférée, c'est quand même. Moine, ma poutine. Je goûte chez Simon Zagapi.
Ah, bon, quel autre.
Mais qu'est-ce que tu veux?
Je te dis. Mais donc, c'est ça, cette croyance-là, en tout cas, ça semble très marqué. Puis là, tu nous as donné des exemples frappants là-bas qui t'ont permis de constater tout ça. Puis, tu sais, nous, au Québec, on cherche un peu à travers ça. Puis, je me dis, à long terme, on devrait peut-être retourner vers ces choses-là qui sont très simples. Hein? C'est la base même.
Et vraies valeurs.
Puis, comment tu trouves ça, toi, qui travaille dans un domaine où, avant, c'était étroitement lié, là, le domaine de la santé et hein, tout ce qui était des sœurs, des frères, mm-hmm. Tu sais, je veux dire, la santé, c'est ça vient...
Les hôpitaux étaient tenus par des bon, religieuses à la base.
Donc, puis la religion était sortie, là, évidemment, du système de la santé. Comment tu trouves aujourd'hui ce mariage-là? Est-ce que tu pourrais... considérer qu'on revienne peut-être, je veux dire, pas avec des religieuses.
À la base, un peu plus.
Je pense.
Intégrer ça, peut-être.
Je pense qu'à la base, avant, dans le temps d'avant, lorsque c'était les religieuses.
Dans l'ancien temps,
dans l'ancien temps, oui, c'est ça. Dans l'autre temps, je pense que lorsque les infirmières étaient religieuses, non, pas nécessairement les infirmières, parce que les infirmières ont quand même le cœur humain. Oui. C'est plutôt les signes tchèques, en fait, qui ont un peu moins le cœur humain. Et si ces gens-là étaient un peu plus axés sur l'humain en soi plutôt que sur le chiffre, peut-être que ce serait préférable. Parce que je me rappelle très bien de par les livres, j'ai visité des musées aussi de soins infirmiers où on voyait le temps des religieuses, tout ça. Et puis on prenait soin de la personne qui était couchée dans le lit et non pas du coût total de la personne. Donc, je m'explique, on prenait pas pour acquis que, bon, on installe un cathéter, ah, là, on vient de le manquer. Il faut en remettre un autre. Bon, là, on vient de tomber à 10 $ pour le patient. Là, ouais, il faudrait changer sa tubulure, mais là, on vient de tomber avec un autre 2 $ de plus. Donc, on calculait pas comme ça. La personne, la priorité était la personne qui était couchée dans le lit. Oui. Peu importe le coût qui était porté à ça, on prenait soin de l'humain en tant que tel. Maintenant, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup plus... soin du livre des dépenses que de la personne qui est couchée dans le lit, puis que la personne, malheureusement, devient beaucoup plus un numéro qu'une personne. Donc, c'est pas rare à l'hôpital qu'on entend puis ça, je critique pas mes collègues, là, parce qu'on est submergé de travail.
Ouais, oui,
ça, les gens ont l'impression que les infirmières font rien dans les hôpitaux. Moi, je tiens à dire que c'est un travail et que les gens dans les hôpitaux, c'est pas parce que je suis infirmière moi-même, mais font un travail quand même assez exceptionnel. Dans des conditions qui sont pas très bien non plus. Les gens pensent qu'on travaille à taux double à Noël, alors que vraiment pas. Non. On vient tout juste d'avoir notre taux et demi à Noël. On fait des 16 heures de face à taux et demi aussi. On a des conditions vraiment pas faciles. Une fin de semaine sur deux, on travaille une fête sur deux. Donc, c'est pas vraiment facile pour les infirmières. Donc, on fait vraiment notre maximum. Mais on devient tellement submergé que malheureusement, les gens deviennent beaucoup plus un numéro et on prend pas le temps pour la relation humaine, alors que les soins infirmiers, c'est la relation humaine avant tout.
Ouais. Vous souvenez-vous quand Yves The Nurse avait appelé et qu'il avait dit le moment où ça a changé, c'était...
Oui, quand les religieuses ont sorti
des hôpitaux.
Ouais. Hein. Je pense que c'était un appel. C'est quelqu'un qui avait appelé qui avait dit ça.
Je me souviens plus si c'était Yves ou effectivement un appel, parce que je vois un lien direct. Puis au Québec, on a l'impression qu'on a perdu du terrain dans certains domaines. Puis, tu sais, je sais qu'on décrit aussi tout ce qui s'est passé au niveau de la religion. Puis, on n'est pas nécessairement toujours fiers non plus des réalisations de la religion catholique. Mais en bout de ligne, quand j'écoute les témoignages qu'on a entendus ce soir, on ramène souvent la religion centre de nos priorités, de nos croyances. Puis à long terme, puis on a déjà posé la question, tu te souviens, Duff, quelles sont les croyances, puis ainsi de suite.
Oui.
Je pense que...
C'est mon genre de sujet, ça.
Oui, ça, c'est ton genre de sujet, mais définitivement que des fois, on cherche la clé, tu sais, dans bien des choses, mais on se ramène pas à ces petites choses-là.
C'est de revenir à la base, souvent, malheureusement, on le fait
puis
pas.
De ramener, mais c'est l'être
en,
humain.
C'est peut-être en fait de te ramener à ce qui te lie, ce qui te connecte au reste, puis si pour toi, c'est la religion. Alors, profite-en, tu sais. Si c'est autre chose, profite-en pareil. Mais
je veux dire, sans mettre
ressourcer, excuse-moi, Witness.
Non, excuse, continue.
Ah, excusez-moi pas, ouais. Là.
Ben, c'est ça, à ce moment-là.
Tout le monde est go, on s'excuse. Mais ben, je m'excuse.
De se recentrer, tu sais.
Oui, mais.
Ouais, sans mettre.
Okay,
sans
mettre là, je vais prendre.
sans mettre un nom à la religion, du moins au niveau spirituel, il y a des gens que ça va lui faire du bien ou des choses comme ça.
Oui. Puis, mais.
Moi, je dirais pas nécessairement remettre l'accent sur le spirituel parce qu'il y a des gens à qui ça colle pas du tout et qui veulent vraiment pas en entendre parler. Ce que je dirais, par contre, c'est remettre vraiment l'accent sur l'humanité en tant que telle.
On la perd, cette
passion-là. C'est ce qui manque.
Oui.
C'est ce qui manque.
Parce que depuis que vous êtes arrivé, depuis que tu nous racontes ton histoire, puis Sombré aussi, on ramène beaucoup d'avant-plan. À l'avant-plan, l'être humain, la croyance,
oui.
les bienfaits,
les capacités de l'homme, les bienfaits aussi liés à tout ça. Oui. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'on s'illusionne à travers le matériel, peut-être, qu'on a des attentes par rapport à des choses, des fois, qui sont assez éphémères. On s'attache peut-être aussi davantage, des fois, trop à certaines choses qui sont anodines. Mais en bout de ligne, des expériences comme ça, puis on dit le voyage forme la jeunesse, mais un voyage comme t'as fait, puis en plus que vous avez vécu une catastrophe comme ça, là, c'est plus que la jeunesse que vous avez formé.
Le voyage forme l'humain, je dirais.
Oui, l'humain.
Des expériences, c'est incroyable.
Moi, je te lève mon chapeau parce qu'en plus, c'est beau de vous voir, là, c'est une réunion de deux cultures. Vous avez passé à travers quelque chose de grand, non, mais c'est quand même.
Ça a commencé sur Internet, c'est possible.
Oui, ça veut dire qu'on va continuer là-dessus.
Non, mais. Tu sais, je veux dire, c'est pas toutes les couples qui ont vécu une catastrophe comme vous avez vécu. Ça a pas dû être toujours facile.
On nous a dit, vous avez vécu le pire, maintenant reste le meilleur.
Oui, c'est ça. Savoir. Mais ça a pas dû être toujours facile.
Ils ont dit ça avec les Nordiques, par exemple.
Ils ont dit ça. Quand ils vous êtes mariés, c'était pour le meilleur et pour la pire, c'est ça?
Non, c'était la meilleure et le pire.
OK. Mais. Tu sais, en bout de ligne, je me dis, vous en êtes bien sorti, puis je pense que le meilleur est vraiment à venir dans votre cas. Puis, si on peut en prendre des leçons ce soir, tout le monde ici autour de la table, moi le premier, puis ceux qui nous écoutent, ben je me dis, faut quand même tirer un peu profit de votre témoignage, de votre expérience. Parce que moi, sérieusement, peut-être toi, tu voulais vivre une catastrophe, mais moi, définitivement, que ça n'a jamais fait partie de mes ambitions. Fait que puis je veux pas non plus avoir des invités qui nous racontent toutes sortes de catastrophes parce que je trouve que c'est éprouvant aussi, puis surtout là dans le cas présent, c'était pas évidemment tout ce qu'on pensait qui allait se passer, mais on s'est retrouvé écoute là avec des morts des centaines de milliers
de morts.
C'est une catastrophe qui à chaque jour qui était de plus en plus dévastatrice dans ce qu'on nous présentait. On est parti d'un petit bulletin de nouvelles qui nous disait un tremblement de terre à Haïti, puis quand on l'ampleur de tout ça, puis t'as vu les témoignages aussi, le Québec qui s'est organisé par rapport à toute cette structure là pour mettre en place là, un système de donation.
Oui.
Je veux savoir, moi, j'ai une question pour toi, Sombri. Locke Merville.
Je le savais.
Oui, si, je l'avais
regardé. Quand on s'est regardé, on est parti à rire, on a pensé à
Locke
ça.
Locke Merville, est-ce qu'il est connu en Haïti?
Oui.
Oui?
Beaucoup?
Beaucoup?
Es-tu plus connu dans sa famille ou bien il est plus connu?
Est-ce que les gens l'aiment en Haïti, chérie?
En Haïti. Disons pas en Haïti, mais à Port-au-Prince. Oui.
Il était de Port-au-Prince, Locke
Merville? Non, je ne sais pas si, d'où il est.
Mais il était connu à Port-au-Prince.
Oui, oui.
Les gens l'aiment beaucoup en Haïti, non?
Oui.
Les gens l'aiment beaucoup en Haïti.
OK, donc c'est un ambassadeur, puis les gens sont fiers de ce que Luc représente pour la nation.
Oui, oui.
L'autre personne, le journaliste, j'oublie son nom.
Belle chose, Moreau, Herbie Moreau.
Herbie Moreau.
Non, pas Herbie Moreau.
Non, je sais pas.
Non. L'écrivain, mère de Colin.
Il a échappé son vin.
Ah, tu veux parler de Danny Laferrière?
Oui, Laferrière.
Exactement. Il était en Haïti, d'ailleurs. Danny,
oui.
Ah, oui, tu
veux. Danny Laferrière était en Haïti quand il y a eu ces étés-là.
On l'a pas vu. On a la chance de voir les bobettes à Smart encore à soir.
Il y a de la visite pour Smart, attention, là. Mais la dernière fois, il s'est complètement dévêtu parce qu'il s'est renversé du vin dessus.
C'est beau, je vais y aller, je vais aller chercher le papier.
Tu peux juste allumer la lumière. bière, là, puis tu peux m'apporter le stuff, là, je vais
le faire. Il y a bien la misère avec la boisson, et généralement.
Moi, je profite de cette interlude, là, pour te dire que moi, là, moi, Daniel, je suis tellement heureux de te revoir ici en vie, là. OK, là, ça fait comme, t'as aucune idée comment. Je peux pas qu'on parle par rapport à ta famille, là, mais moi, là. J'étais tellement heureux, là.
Mais, ouais, mais il fait partie de ma famille, en fait. C'est mon grand frère. Bon, pas de sang, quand même. Là.
Désolé, elle sombrille. Il faut que tu...
Mais là, je vais peut-être être en partie de la vôtre, mais que je connaisse sa sœur, là.
Peut-être sera-t-il le beau-frère, qui sait.
Mais les moyens de communication sont établis là-bas, là. Donc, vous pouvez communiquer par Internet.
C'est
pas mal le moyen de communication le plus répandu ou ça reste le téléphone? Le bon vieux téléphone?
Bon, téléphone, tout le monde en a. Internet, c'est un peu plus limité. Mais non, il y a beaucoup de gens quand même qui ont Internet, quand même. C'est cher, Internet en Haïti. C'est très cher.
OK.
Mais les gens qui peuvent se le permettre, oui.
Mais en partie, tantôt, quand tu parlais de à quel point c'est juste moins matérialiste, je trouve que c'est comme prévisible qu'il y ait juste moins d'accès à Internet, moins d'ordinateurs, etc. Mm.
Les gens sont moins matérialistes, mais ils ont tout ce qu'il faut côté matériel, par contre. Donc, tout le monde a son téléphone cellulaire. C'est sûr que les téléphones fixes en Haïti sont beaucoup plus rares qu'ici. C'est pas chaque maison qui a son téléphone fixe. Souvent, les gens vont avoir chacun leur téléphone cellulaire plus tôt.
Mais quand tu dis que l'Internet est cher, c'est ça représente quoi, ça, cher?
Bon, je sais pas, monétairement parlant. Peut-être que Sombri pourrait...
C'est combien de dollars l'accès à Internet par mois? C'est
Bon, environ 60 $.
Ah oui?
Okay. 60 $US, oui.
60 $ l'Internet US par mois?
Alors que les gens font en moyenne peut-être un maximum de 480 de la moyenne des gens là-bas. Oui,
c'est de l'argent.
Ça occupe une bonne partie du budget, ça. Okay.
Oui. Mais Sombri, c'est un 60 pièces bien placé, pareil. Hein?
Mais attendez, Sombri n'avait pas l'Internet à la maison.
Non, mais pour moi, c'était au bureau.
Oh, sur le temps de travail.
Il travaillait-tu au gouvernement?
Il pourrait te répondre, mais tu risques de pas être vivant à la fin.
Il y a quelqu'un sur le chat qui me rappelle, il me rappelle à l'ordre. J'ai dit Dany Lafrenière, mais c'est Dany Lafrenière.
Lafrenière, oui.
Okay. Qui était en Haïti, comme je dis, lors du séisme.
C'est lui qui avait sorti le livre Comment faire l'amour. C'était quoi, non?
Non,
il avait...
c'est pas lui.
Oui, c'est lui. Oui,
c'était
c'est
comment
lui.
Faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer.
Mais c'est lui, ça.
C'est lui qui a fait ça.
OK.
Ça a été, je pense qu'il l'a fait connaître, d'ailleurs, je crois.
Lafrenière? C'est lui ou Lafrenière?
Lafrenière. Mais sérieusement, je
pensais que tu mélangeais avec l'autre. Mais OK, en tout cas.
Ouais.
Bon. Mais parce qu'on a entendu parler aussi, c'est qui aux États-Unis qui est le chanteur? Voyons, j'aurais dû préparer mes questions. Là.
Jay-Z?
Non, celui...
Wycliffe?
Oui, c'est ça. Wycliffe Jean.
Ouais. C'est un Haïtien?
Oui, c'est un Haïtien.
Ben oui.
Ouais, je savais pas ça, sérieusement. Ah, ouais.
T'étais sur quelle planète, toi?
Ben non, mais je veux dire...
Il y a eu une polémique par rapport à lui.
Il était à la recherche d'une femme sur Internet.
Ah. C'est vrai, Duff.
Ben non, mais Wycliffe Jean, écoute, je m'excuse. Excusez mon ignorance. Je suis humain et je peux avoir droit à l'erreur. Là.
Il y a eu des spectacles à Haïti.
Mais il est plus connu que Luc.
Ouais.
Oui, il est plus connu.
Ouais, Wycliffe Jean, oui, sérieusement.
Mais il y a eu des spectacles là-bas aussi à Haïti qui ont été organisés de mémoire. Où il n'y a rien.
Après le séisme?
Ouais. Non, il n'y a rien eu. Hein.
Non, mais le remake de We Are the World, là.
There was a time.
Oui, mais c'était pas en Haïti.
Non, ok, tu parles en Haïti.
Oui, directement là-bas. Ouais.
En Haïti, depuis, je pense pas, non, parce que le premier mois.
Après le 12 février, oui.
Oui. Parce que du 12 janvier au 12 février, le pays au complet était en berne. Donc, il devait y avoir, habituellement, en février, il y a le carnaval haïtien. Donc, c'est 3 jours de fêtes, de musique, des gens dans la rue qui dansent, tout ça.
Quelle date, ça, tu dis?
Ça dépend. Okay, cette année, c'était 12, 13, 14. Non.
Et cette année?
Oui.
C'était 14, 15, 16.
Bon, 14, 15, 16. Mais du 12 janvier au 12 février, tous les bars étaient fermés. Bon, à l'exception, bon, on pouvait les ouvrir en fait, mais on devait mettre de la musique d'ambiance. Donc, le pays était en berne, il y avait pas de club ouvert, il y avait pas de fête, donc le carnaval a été annulé cette année compte tenu des événements. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense pas que, bon, peut-être après le 12 février.
Après la journée de prière, oui.
Bon, peut-être qu'il y a eu, c'était peut-être okay, là.
OK.
Parce que, tu sais, on a vu beaucoup d'événements qui se sont organisés dans le reste du monde, mais faut que les gens là-bas puissent se divertir quand même. Là.
Oui, c'était comme pour dire, bon, on recommence.
Ouais, si on recommence, okay, on se relève, puis on repart, effectivement.
Parce que, tu sais, je pense qu'il y a un moyen aussi de sans dire festoyer, mais...
Il faut vivre malgré tout.
Ben,
ça,
de fêter la vie.
Ben, c'est ça.
Oui, dans un sens, faut garder le moral aussi, puis je pense que c'est normal d'avoir ça aussi. Là. Non, mais t'es pas de l'assurance.
Non, non, moi, j'espère, parce que je me dis...
Je pensais que t'allais me dire Herbie Moral, tu sais. T'étais parti pour...
Non,
là.
C'est vrai.
Herbie Moral. Herbie Moral, c'est un haïtien. Je suis certain que c'est un haïtien.
On voit que t'es trop branché sur Québécois.
Non, moi, je veux rien savoir de ça, moi.
Parce que...
Mais Herbie Moral, je pense que oui.
Duff, c'est notre chroniqueur, hein. Star Academy, Occupation Double.
Surtout avec Occupation Double, ouais. J'aime voyager. Hein,
ouais, c'est toujours le prétexte.
Ben non, mais, voyager. Quoi, oh, oui. Mais Sophie aurait dû l'embrasser.
Ben, c'est ça.
Ouais, voyons donc.
Elle aurait gagné.
Tu vas dans un show pour embrasser quelqu'un, elle ne l'embrasse pas parce qu'elle veut le connaître. T'as 3 semaines, ma grande, pour le connaître. Que c'est ça, cette affaire-là? Elle a perdu la maison.
Ben oui.
Pour moi, elle est arrivée.
Là, parlant d'occupation double, est-ce qu'on a eu une confirmation pour la guerre des sexes? Mais non, mais c'est parce qu'on a dit qu'on l'annoncerait avant la fin de l'année.
Là,
on attend la semaine prochaine, c'est ce que je comprends.
Ben, ça s'enligne pour être la semaine prochaine. Ouais. Le seul problème, c'est que la deuxième fille risque d'être au téléphone. Alors qu'on aimerait l'avoir en studio en passant,
mais à ce moment-là, on reporte l'événement?
On peut le reporter aussi.
Parce que c'est un atout important.
Oui, mais j'aimerais l'avoir en studio. Je vais être honnête avec vous, j'aimerais l'avoir en studio pour avoir un senti quand qu'on parle.
Ouais, moi aussi, personnellement, ça serait mieux.
Moi, je pense que oui. Écoute.
Donc, on va revenir. On va revenir à nos auditeurs.
Dans les prochaines semaines,
parce
peut-être.
Parce que là, je viens de créer des attentes.
Ouais, mais peut-être que la semaine prochaine, ça le sera. Si elle peut venir, ça sera la semaine prochaine. Mm-hmm. Sinon, d'ici au 2 avril maximum, ça va l'être.
C'est certain qu'elle va être venue avant ce temps-là. Ça, c'est sûr.
Bon, ben, écoute, à vous de venir.
On parle de la guerre des sexes 3, évidemment, oui, hein, parce que je pense qu'on l'avait pas dit.
Ben, c'est sûr qu'on va inviter les gens à suivre le site Internet.
Oui,
effectivement. Comme ça, le verront. Parce que, définitivement, qu'on crée toujours des attentes par rapport à ça.
Et mais le sexe, c'est important, hein, je pense. Ça fait partie de nos vies. Hein. Mais non, mais c'est vrai, les gens...
De ta
ça,
vie?
C'est... Ben, pas rien que de la mienne. Écoute, si ta mère, elle n'aurait pas eu, tu serais pas là, mon grand. Fait que finalement, merci au sexe.
Hey, au risque d'être tannant, là...
Vous t'es tannant! Bon,
on me donne raison. C'est Denis Laferrière.
Écoutez, prenez le temps d'y penser, là.
C'est ça.
Puis revenez loin avec ça, OK?
J'aimais mieux me corriger parce que, il me semble, c'était ça, l'affaire. Là.
C'est Lafrenière ou Laferrière?
Laferrière.
Laferrière. T'es sûr que c'était Danny Bédard, moi, finalement.
Peut-être qu'il pourrait nous appeler pour confirmer.
Oui, on l'enlève justement sur la 2. C'est full live. Mais c'est ça, la guerre des sexes 3, bref, on va voir, mais probablement la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent.
C'est près de chez vous, dans un théâtre.
Mais stay tuned parce que ça risque d'être la semaine prochaine.
Ouais.
Oui.
Si ma chum peut se pointer, il y aura pas, ça va être la fin.
Ouais. Parce que on apprécie toujours l'émission, mais c'est sûr qu'avec du direct puis avec la personne avec nous,
c'est pas pareil quand tu le live.
Vous savez, tu sais comment c'est quand j'étais au téléphone là, c'est vraiment à chier.
C'est pas à chier, mais c'est pas pareil, tes amis. Premièrement, quand t'es au téléphone, tu nous sers pas le vin comme t'as fait asseoir.
Ouais, c'est pas votre pute de service, t'as bien raison. En passant, je le faisais pas pour toi, je le faisais pour la fille dans le studio.
J'imagine.
Vous étiez du collatéral.
Je te dis. Tess, je voulais qu'on te maltraite, mais finalement, je me rends compte qu'on t'a pas maltraité ce soir.
Oh, mais comment peut-on maltraiter tes amis?
Tu vas avoir
là.
Tout plein d'occasions, ne t'en fais pas.
Ben, quand on a l'occasion d'avoir un Montréalais parmi nous, des fois, il faut lui rendre l'appareil.
Ouais, mais Tess, c'est plus qu'un Montréalais, c'est un chumé.
Mais tu as remarqué, des fois, il se faisait oublier, il sortait, il s'en allait se promener, il revenait.
Ouais, mais je trouvais que le spotlight était très bien dirigé sur Annick et son bris.
Oui, effectivement.
Ouais, ouais.
Que... Très intéressant, oui.
Ouais.
Merci, puis je t'aime, puis je suis content que tu aies été ici aujourd'hui.
Je t'aime aussi, puis j'étais bien contente d'être là. Ça a vraiment été intéressant.
Ben, merci beaucoup de votre témoignage, parce que les gens ont apprécié, ça discute dans le chat, je check ça, puis là, je vois effectivement les discussions à propos de Denis Laferrière. si on a des commentaires, ben on verra, peut-être vous les envoyer par la suite. Ouais. J'invite les gens aussi à rester des nôtres parce que prochainement, on va avoir quelqu'un qui fait de la radio dans la région de Québec, là, un peu controversé, qui va venir à l'émission.
Dis rien.
Okay. Parce que actuellement, il y a beaucoup de bruit par rapport à la radio poubelle de Québec.
Ouais.
En général.
Donne des bons indices à personne, là.
fais attention. Ben, tu pourrais être surpris.
La Clark va être en onde.
Mais sérieusement, on veut parler de l'événement parce que ça éclabousse, ça éclabousse.
Ça éclabousse.
Éclabousse.
On éclabousse,
ça éclabousse. Ça éclabousse.
On a eu une preuve tout à l'heure avec le vin que ça a éclaboussé.
Moi, donc, comme on dit, il y a mieux qu'une éclabousselure.
Tout le monde paye le prix. Même Tess Domi nous avait embarqué dans le panier à crabe.
À crabe.
What? Ce midi.
Panier à crabe.
C'est quoi ça?
Je fais mon Jean Perron, c'est mon péronisme.
Mais t'es très bon, t'es très
bon. Non, mais c'est vrai qu'on est éclaboussé par la bande avec tout ce qui se passe actuellement. Non, mais c'est vrai, d'offrir pour ça.
Québec, là, c'est de la radio poubelle.
Parce qu'on veut continuer à faire de la radio, fait qu'il faut quand même éclaircir un peu les gens. Puis on est chanceux parce qu'on a un média qui est écouté à travers le Canada. Donc, on pourra donner l'heure juste aux gens de Montréal, comme aux gens de Calgary, par rapport à tout ce qui se dit. Parce que ça fait des échos à Montréal, dans le reste du Canada. Non, non, mais c'est vrai, Doff. Puis je pense que c'est important. Fait qu'on va faire la lumière là-dessus. Fait que stay tuned. On
s'en vient avec. Stay tuned, as we said.
Fait qu'on va souhaiter une bonne semaine à tout le monde.
On est déjà rendu là.
On est déjà rendu à la fin, Doff. C'est terminé.
Ça passe trop vite.
Avez-vous quelque chose à dire?
Je vous aime, mais on se tient au courant pour la suite.
Merci, Annick. Merci, Sandrine.
Ben, merci beaucoup. Ça a été un baptême du micro aussi intéressant que le baptême de l'air.
Ouais, une fois que vous venez, vous êtes les bienvenus à tout moment.
Parfait, j'en reviens la semaine prochaine.
On pourrait leur donner la carte privilège.
On a une carte privilège?
Oui, bon, oui, je vais vous faire ça sur un bout de papier. Là.
Okay.
Vous pouvez venir quand vous voulez. Là, aucun problème.
Je réserve mes dates.
Bonne semaine, tout le monde. Faites attention à vous.
Bye tout le monde.
Salut.
Bye bye. Bye merci. Bye. Merci.
Bye bye.
Wow, wow, faites-vous-en pas. C'est fini pour cette semaine, mais les gars vont être là la semaine prochaine. Puis l'autre après, puis l'autre après. Tu comprends le principe? C'est ça, Radio Shock and Friends. Just wanna...